Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il paraît que vous aimez bien les digressions.
Vous voulez vraiment m'humilier dans ce podcast?
J'ai le droit d'avoir des beaux cheveux, merde.
C'est vrai que t'as des beaux cheveux.
C'est vrai que t'as des beaux cheveux.
T'es jamais les pieds à l'air.
Mais ce que je voulais vous dire, c'est juste buvez de l'eau. Hein.
Si vous pensez que je l'ai jamais fait, vous vous trompez beaucoup.
Je vais te parler comme ça dorénavant.
Oh, c'est condescendant.
Personne te fait chier si on est dans un safe space.
Non.
It's drums time, bitch.
Je pleure.
N'arrêtez pas d'écouter la sonkie.
Jamais, n'arrêtez jamais.
Mais ne vous disputez pas, vous êtes d'accord, vous dites la même chose.
Ah bon? Quoi? Hein?
Il y a un générique?
Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Alors je sais que ça fait 8 épisodes qu'on vous dit et Laisse-moi kiffer de retour, c'est super parce qu'on s'était arrêté en octobre. Sachez que les enregistrements étant parfois asynchrones, car nous vivons dans un multivers de temporalité variée, pour moi ça fait un petit moment que je ne suis pas venue enregistrer Laisse-moi kiffer, même si vous m'avez a priori entendu il n'y a pas longtemps, puisque toutes les semaines vous m'envoyez des retours à des kiffs que j'ai oublié que j'ai fait parce que je les ai fait il y a 2 mois et que de toute façon je les oublie 20 minutes après être partie de la salle d'enregistrement car mon cerveau se dit c'est bon, quelqu'un a enregistré, t'as plus besoin de t'en souvenir. Bref, du coup
j'aimerais trop que mon cerveau sache faire ça.
Bah écoute, après j'ai l'air un peu bête, vraiment des fois les gens m'en parlent une semaine après, je suis là, quoi? Hein? Peut-être que, après j'emmagasine des infos qui ne servent pas à grand chose, tu vois, sur des films de 2001 avec Keanu Reeves et Charlize Theron. Mais c'est pas grave, je suis Mimi Hegel, j'étais rédactrice en chef de Mademoiselle, maintenant je suis créatrice de contenu, notamment de podcasts et entre autres animatrice de Laisse-moi kiffer, auquel je reviens avec une joie non dissimulée.
Oui.
Et je suis entourée d'une équipe de choc qui m'a manqué et que je suis ravie de retrouver. Comme c'est le podcast de la bonne humeur, je me suis dit qu'on allait faire une question de Proust un peu feel good pour ce mois de novembre où nous enregistrons. Je ne sais pas quand cet épisode sortira, on a arrêté d'essayer de deviner. Du coup, sachez qu'on tourne en novembre et que c'est la dep globalement dans l'intégralité des gens que je connais, ça ne va pas du tout. Donc, je vous aime, j'espère que chez vous ça va. Parlez aux gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez et faites-leur des câlins. Mais du coup, en attendant, je me suis dit qu'on allait en parler un peu en vous demandant quels symptômes de la déprime saisonnière vous êtes. Donc cette forme de déprime, de coup de mou, qui peut survenir à cause d'aléas de la vie, mais qui est à minima impactée par la météo et le fait que l'automne-hiver, la nuit tombe à 17h, il fait froid, il fait moite, il pleut, et parfois, les gens ont tendance à dire que novembre n'est pas le mois le plus fun de l'année, ce que je réfute étant né en novembre, mais je comprends que tout le monde n'a pas la chance d'être scorpion. Aïda, est-ce que tu as une réponse, ma chère Aïda? Toi qui as un rayon de soleil perpétuel.
Pas en novembre, sachez-le. Là, je reviens de vacances, donc ça va. Mais dans 3 semaines, je serai de mauvaise humeur.
Hâte pour Noël.
Moi, j'ai un symptôme hyper spécifique de dépression du mois de novembre qui est que c'est le mois de l'année où je re-regarde The Office.
Ok.
Pour la 800 000e fois, sachant que j'ai 30 ans et que ça fait 10 ans que je re-regarde The Office.
T'es un mec toxique.
Je suis un homme toxique. Bah, c'est mon toxic trait en tout cas.
Les mecs toxiques aiment The Office. Je croyais que c'était OSS 117, la comédie des mecs toxiques.
Ils en ont plusieurs, mais The Office, c'est quand ils essaient d'être un peu originaux.
Ok. Ce qui est vraiment très peu original en réalité.
Il y en a des biens, not all mecs toxiques. Je suis not all fan de The Office. Je me dis, tu vois, mon mec, il aime bien The Office. Mais j'avoue, moi, je peux pas regarder, c'est trop cringe. Genre, je suis vraiment en mode, ah, j'ai envie de sortir de mon corps. C'est trop, c'est la limite est franchie.
Je sais pas, moi, au contraire, tu vois, ça me désensibilise au cringe et je suis là, yes, je peux mieux gérer mon existence. Maintenant que j'ai re-regardé
il y a Michael Scott.
Après avoir vu 14 fois la saison 1, qui est vraiment le truc le plus cringe de l'histoire de l'humanité,
c'est dur. Hein. Ouais, c'est
dur. Je peux gérer les interactions sociales gênantes.
J'ai pas réussi à la finir, moi. J'ai vraiment abandonné en mode non.
Je crois que le max que j'ai fait, c'est la saison 1 entière. Américaine, la britannique qui est pire, et il y a Ricky Gervais que j'aime pas. J'ai vraiment tenu un épisode et je crois que les épisodes durent 20 minutes, donc c'est pas très long, ouais. Avec des coupures pub. Mais vraiment, j'étais là, c'est non, c'est trop, et je peux pas. Mais très bien. The Office t'aide donc à affronter l'absurdité de l'existence.
Bah ouais, je sais pas, c'est devenu mon espèce de série doudou malaisante.
Je comprends. Bah là, je suis en plein dans un rewatch et je fais découvrir à mon mec Parks and Recreation.
Oh, j'adore, c'est ce que je regarde quand j'ai fini The Office.
Le co-créateur de The Office et qui devait être un spin-off de The Office à la base, blablabla. Bla bla. Et dont DLM Crado sont revenus me parler en DM récemment parce que Mathis, tu l'as remis en avant sur Instagram, qu'un de mes kiffs d'il y a longtemps, c'était Parks and Recreation. La meilleure série du monde qui est dispo sur Prime. Du coup, peut-être que tu pourras enchaîner avec ça si jamais The Office te fait pas tout l'hiver.
Normalement, non, en général, ça fait 3 semaines.
Il y a pas mal de saisons, quand même.
Il y a vraiment beaucoup d'épisodes. Wow. Mais tu sais, c'est la dépression.
J'ai fait un rapide calcul mental. J'étais là, yes, l'automne-hiver, on sort pas de chez soi, ça sort.
Ouais, voilà, j'ai la flemme de sortir. Je regarde tout The Office, après Parks and Rec, et après Fleabag. Et après, très normalement, bien. C'est
mon anniversaire. Une trilogie du malaise, quand même. Hein.
Ouais, ma passion.
Hâte que ton anniversaire marque le retour de, enfin en tout cas la fin peut-être, de la dépression saisonnière parce qu'il n'y aura plus de série à remater.
Et voilà, on passe la 6e sur l'autoroute du Somme.
Yes, le podcast du kiff, vous l'avez chez vous. Anthony, comment tu déprimes de façon saisonnière toi ?
J'ai une espèce d'appareil qui n'est pas du tout électronique, qui est un outil qui me permet de faire des inhalations. Parce que dès qu'il commence... Ouais,
un
à peu près.
D'eau chaude.
Non, en fait, justement, avant, j'étais team bol d'eau chaude, voire casserole que tu mets sur le feu. Et une fois que c'est vraiment brûlant, et ben, tu la mets au-dessus de ta tête. Enfin, tu mets ta tête au-dessus de la casserole.
Oui, vous ne mettez pas la casserole d'eau bouillante au-dessus de votre crâne, d'accord ?
Ça dépend ce que vous voulez faire, mais je vous conseille.
Ouais, alors ça, c'est un remède très définitif à la dépression. J'ai le nez un peu bouché, je pense que je vais m'immoler par ébouillantation. Let's go.
Je suis pas sûr que ça te tue en plus, donc c'est
non,
vraiment.
Non, c'est juste un moment nul à passer, quoi.
Ça fait vraiment mal, quoi.
Ou alors tu le fais à la médiévale, c'est du goudron chaud ou de l'huile chaude ou de la poix, un truc qui colle, tu vois, bien du caramel. Faites du caramel chez vous. Non. Oui, donc
c'est de la inhalation.
Ouais, non, je fais juste des inhalations parce qu'en fait, justement, avant, j'étais team casserole et j'étais là, non, mais ça suffit. Et j'ai fait une coloc avec une pote qui avait justement cette espèce de récipient en plastique avec une excroissance tubulaire qui va pile sur le nez et la bouche. Et ouais, ça ressemble à une trompe, effectivement. Et du coup, tu peux continuer ta petite vie sans avoir des lunettes pleines de buée.
J'ai juste une image mentale très drôle de toi avec une trompe qui t'envoie de la vapeur, mais qui fait ta vie. Tu sais,
oui,
qui cuisine, qui fait du tricot, qui bosse et tout.
Je travaille, ouais, et ça me permet de continuer ma vie. Et c'est vraiment trop utile. Et surtout, en fait, dès que j'ai un rhume, une bête rhinite, à ce que ça se transforme en sinusite. Et faire ça dès le début du rhume, déjà, ça me décongestionne et ça me soulage beaucoup. Et en plus, ça m'évite que ça tourne à une sinusite. Du coup, en fait, c'est quand je garde ce truc sur mon bureau, c'est que vraiment, c'est l'automne hiver, quoi.
Est-ce que t'as déjà fait des visios en oubliant que t'as ça sous le nez ?
Je pense que oui, mais j'active rarement ma caméra, donc je pense que je mettrais du temps à tilter. Une fois, j'avais démarré un visio, alors j'avais encore mes lunettes de piscine sur... Parce qu'en fait, je coupe mes oignons en mettant des lunettes de piscine.
Ça marche vraiment ?
Ça marche vraiment. Okay. Et juste, t'es pas très soif.
Je suis
swag,
pas assez
quoi.
Sensible pour aller jusque-là, mais j'ai des lunettes de piscine chez moi. Je me dis, si un jour je fais une soupe à l'oignon, je dois couper 2 kilos d'oignons à la suite, tu vois, je saurais que je peux ne le dire à personne, mais porter des lunettes de piscine.
Ça marche vraiment. Et une fois, j'ai oublié de les enlever pour une réunion. Je me demande même si c'était pas une interview, d'ailleurs. Mais la personne se reconnaîtra peut-être, donc pourrait se laisser dans mes DM pour me le rappeler. Mais vraiment, j'ai fait un truc comme ça, mais archi gênant, quoi.
Enfin, c'est drôle en même temps.
Je crois que c'était Vénus Luzo ou Barbara Bouch, j'ai un doute. Mais
c'est pas les pires personnes à qui, tu vois, c'est pas quelqu'un genre connu pour être austère et désagréable. C'est des gens plutôt fun qui jouent aussi. Peut-être elles se sont dit c'est un statement.
Mais justement, je crois qu'elles ont pas tilté tout de suite, en fait. C'est moi qui ai tilté dans le retour caméra, qui avait mes lunettes de piscine. Et en fait, elles ont juste cru que c'était mon style, quoi. Effectivement.
Enfin,
et
est-ce que du coup, tu les as gardées en mode, c'est exactement ce que
je non, non, vraiment,
si
je me suis excusée.
Si je les enlève, elles sauront que c'était pas exprès.
Je me suis platement excusée.
Multitasking.
Ouais, alors... multigénance surtout.
Multitasking, non multigénance, c'est un bon titre d'épisode de Laisse-moi kiffer. Très bien, donc tu es un remède à un symptôme de la dépression saisonnière qui est la sinusite chronique.
C'est positif et constructif de le tourner comme ça, ouais.
Tout à fait. On conseille les inhalations chez vous, ça fait du bien. Mathis, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en automne-hiver ?
Écoute, pour l'instant ça va. Du coup, j'essaie de me projeter sur quand je vais pas aller bien. En fait, moi j'ai une incapacité à me voir dans d'autres états que celui dans lequel je suis. C'est-à-dire que là ça va bien, du coup je me dis ça va toujours bien dans ma vie. Ma vie est plutôt. Voilà, c'est ça. Et quand je vais pas bien, j'ai jamais été heureux en fait. Et du coup, voilà.
Toujours une personne de la demi-mesure.
Toujours Sagittaire par ailleurs. Et du coup,
c'est
assez.
Deux mentions d'astrologie dans le podcast, dont une de ma part, je l'admets, mais on attend le quota. C'est fini pour cet épisode. Okay, rendez-vous.
Ah non, c'était mon kiff.
Non, putain, du coup, quand...
J'ai pas envie qu'il fasse astrologie.
Quand vraiment ça va pas bien, je marche. Genre vraiment, quand vraiment j'ai saturé mon appart de mauvaises ondes, je suis en mode merde, il y en a même sous le... Ah d'accord, bon bah c'est pas possible, faut que je sorte. Et du coup, bah, quand j'ai Ruby, du coup je la balade, et du coup j'ai pas juste l'air de Marc Lavoine en train d'écrire un album. Et puis bah quand je suis tout seul, bah j'ai juste l'air de Marc Lavoine en train d'écrire un album, en train d'écouter des trucs badants, type Radiohead.
Si t'as pas de meuf de 20 ans de moins que moi, que toi à ton bras, ça va.
Jamais, bah non, je suis un Marc Lavoine unproblématique.
En même temps, pour toi, une meuf de 20 ans de moins, c'est vraiment une personne de type maternelle, donc...
Bah une personne de 3 ans et demi, qu'est-ce qu'on peut être. Voilà. Non, mais elle est tellement mature, tu comprends.
Stop. Non, stop, là c'est trop. La limite était là, on l'a frôlée, c'était sympa. On est en train de faire du sur longueur au-dessus, donc on va s'arrêter là.
Moi, ma limite, elle était atteinte au moment où t'as dit Marc Lavoine. Après, j'ai dissocié.
Pour une meuf qui regarde The Office, t'as quand même une limite qui arrive vite en termes de malaisant.
Ouais.
Ouais, c'est vrai, mais j'aimerais pouvoir dire Marc Lavoine, je sais pas qui c'est. Et du coup, j'essaye de toutes mes forces de.
T'as vu le truc de la Starac, j'imagine, ça a pas aidé, hein.
Le bisou dans le cou.
Et oui,
qui est extrêmement amical. C'est pour ça que les hommes font ça aussi aux hommes de plus jeunes qu'eux. Du coup, tu marches. Est-ce que t'écoutes de la musique ou est-ce que tu regardes juste la pluie tomber sur les toits de Paris en pensant à.
Je pense que
c'est. Genre les Aristochats.
Je pense que c'est une question de degré. C'est une question de degré dans le sens où, genre, si ça va. Enfin, si je suis à peu près normal encore. Et que je suis pas encore le regard hagard à plat ventre, j'ai encore de la musique. L'étape d'après, c'est vraiment j'ai plus de musique et je suis vraiment le regard un peu vitreux comme
seul
ça.
Seul avec tes pensées.
Vraiment, je suis dans des rues, je ne sais plus qui je suis.
Et en plus, il fait froid.
Ouais, je sais pas.
Donc ça améliore pas du tout la situation, quoi.
Non, mais je rentre et je suis content de rentrer. Déjà, retrouver mon appart est une bonne nouvelle.
Fait.
Et du coup, j'ai juste envie de me laisser tomber. Mais souvent, c'est... je vais faire ça vraiment en pleine nuit. Enfin, c'est vraiment un move de je suis une personne qui ne risque pas d'être agressée dans la rue globalement. Parce que ça, je l'ai beaucoup fait il y a quelques années quand j'étais à Lyon, à une époque où j'allais pas très bien parce que j'avais un traitement de type proacutane. Et du coup, je faisais genre ça de 3 à 4 heures du matin. Je marchais au hasard dans Lyon comme ça. Et en fait, parce que j'arrivais pas à dormir et que j'avais besoin de me fatiguer jusqu'à ce que vraiment je sois épuisé, que j'arrive chez moi et que je tombe. Ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps finalement, donc tant mieux.
En effet, en tant que ça peut être peu reposant comme activité.
Voilà.
Ça peut peu te fatiguer pour l'objectif qui est de se coucher en rentrant.
Voilà, je recommande peu cette technique qui finalement marche modérément.
Des fois, j'y pense la nuit quand je vois des. Bon, après, je suis rarement dehors à 4 heures du matin car je suis une vieille personne. Mais quand même à genre 23 heures minuit, des fois, surtout en été, tu vois, des gars, ils sont posés sur un banc, tu vois, genre ils bouquinent ou ils sont sur leur téléphone ou ils boivent une bière, ils font rien.
Ils occupent l'espace public.
Ah, must be nice. Ça doit être sympa de pouvoir faire ça sans être en radar perpétuel de. Alors je sais que tout le monde a, surtout dans les grandes villes, un radar à personne chelou en général, genre
oui,
les mecs aussi. Mais en tant que meuf, on a quand même un radar surdéveloppé à « est-ce que cette personne va être spécifiquement chelou avec moi ?» Donc on profite un peu moins des bancs publics, mais c'est en train de changer. Et en effet, j'irai me balader à Guillotière à 3h du matin solo, mais en même temps, il y a plein de meufs qui le font pour que ça va bien.
Après, je crois que je l'ai fait aussi à un moment où je pense que j'avais l'air straight aux yeux de tout le monde et je pense que ça a beaucoup aidé. Je pense que maintenant, je le ferai moins. Ouais, j'étais vraiment plus hétéropassing que je suis aujourd'hui. Donc bon, et encore aujourd'hui ça va, c'est pas non plus. Bref.
Le podcast feel good,
n'est-ce pas?
Et toi, Mimi?
Et ben moi, du coup, une réponse inspirée, je dirais, de ma journée d'hier. Je me rends compte que encore plus quand c'est la déprime saisonnière et aussi que je passe beaucoup de temps chez moi parce que je suis indépendante, n'est-ce pas? Je cuisine beaucoup trop. Genre vraiment, je suis incapable de faire à bouffer des quantités normales déjà. Mais j'ai un problème, c'est que j'aime pas trop manger des restes. Genre j'aime pas trop manger deux fois la même chose. Même les trucs qui sont meilleurs réchauffés et tout, je suis là... En fait, ça me fait chier parce que du coup, il n'y a pas l'activité cuisine. Et je sais pas, du coup, ça me saoule. Je suis là, je vais remanger un bout de truc, je vais juste le réchauffer. Je sais pas, j'aime pas faire ça, bref.
On va faire un circuit ensemble, Mimi. Parce qu'on est vraiment très complémentaires.
Et comme ça, tu manges les restes.
Et c'est parfait.
Mais après, quand on me donne un plat, quand on me donne un plat qui est un reste, en fait, je m'en fous tant que je ne l'ai pas mangé une première fois. C'est vraiment juste remanger deux fois la même chose à deux ou trois jours d'écart. Ça me dépe un peu, je sais pas pourquoi.
Non, je comprends.
Et du coup, je me suis dit, bah cool, j'ai un congélo. Donc quand je fais trop, je peux congeler. Sauf que je me rends compte que j'aime pas non plus congeler de la nourriture cuite. Parce que j'aime pas la manger réchauffée. Enfin bref, je me rends compte que j'ai un problème avec manger réchauffée. Et du coup, j'ai vraiment eu. Alors aussi parce que normalement, je devais recevoir du monde 3 ou 4 soirs d'affilée. Et ça s'est annulé. Because, guess what, il y a toujours une pandémie. Et aussi la dépression saisonnière et les imprévus. Et du coup, j'ai fait un chou farci entier. Donc un chou vert. Je sais pas si vous imaginez la taille d'un chou vert. C'est vraiment gros. avec de la farce intercalée entre toutes les feuilles qui rentraient même pas dans la cocotte, que j'ai dû finir au four et tout. Et genre, le lendemain, j'ai fait un poulet rôti entier. Et je veux dire, on est deux personnes chez moi. Je veux bien que mon mec, il ait beaucoup d'appétit, mais ça commence à être débile en termes de quantité. Et j'ai encore de la farce et de quoi faire des gyoza, mais genre 50 gyoza, et je suis là... Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je pense que c'est vraiment mon côté ourson et hiberné, quoi. Genre, je vais remplir les placards avec de la bouffe. Je suis là, mais...
Comme ça, je serai plus jamais obligée de sortir.
Oui, alors que moi, je suis contente d'aller faire mes courses. En plus, je suis une daronne, donc j'aime bien prendre mon petit caddie, ma petite liste de courses et pouvoir y aller, genre, à 15h quand il n'y a personne et pas à 18h quand il y a tous les gens qui rentrent du boulot et qui n'ont pas envie de faire ça. Donc, en soi, mais je pense que c'est ça, c'est que j'aime bien l'activité et du coup, à chaque fois, je me dis, qu'est-ce que je vais foutre? Je me dis, ah, bah, je vais cuisiner un truc, sauf que je me dis pas, bah, t'as déjà vraiment cuisiné trop de trucs hier, donc il en reste. Donc, mon toxic trait de la dépression saisonnière, c'est de faire trop à manger. Ce qui n'est pas trop un problème quand on a quelques amis à qui donner des tupperwares, par exemple. Ça fonctionne.
C'est vrai.
Ou d'anciens collègues à qui on peut amener des tupperwares de choux farcis, peut-être. Chaque semaine pour laisse-moi kiffer. En vrai, oui. Je peux vous nourrir, ça me fait plaisir.
Je suis végétarien, c'est ma contrainte.
Une phrase de Daron aussi.
De ouf.
N'hésitez pas à nous envoyer en DM ou en commentaire sur le post Laisse-moi kiffer sur Instagram vos symptômes et remèdes à la dépression saisonnière, car si on est tous et toutes dans la même galère, autant partager les bons tips. C'est l'heure de passer à une nouvelle étape de cette introduction, évidemment d'une efficacité et d'une brièveté exemplaire, à savoir les commentaires. Aïda, est-ce que tu as un commentaire?
Non,
Anthony, est-ce que tu as un commentaire pendant qu'Aïda panique en scrollant sur son téléphone?
Oui, bien sûr. J'ai un commentaire d'une certaine Coco qui me dit, je cite, « Coucou, petit Rocco, suite à la discussion sur les voyages du dernier LMK, le podcast Culture Monde de France Culture d'aujourd'hui, 24 novembre 2022, qui traite de la situation grecque. Belle journée, avec une photo de son chat, qui a l'air d'un homme politique, et ça me fait beaucoup trop rire.
Super chat. Il est très rond, il a l'air blasé, et il se tient un peu comme un mec qui va faire un discours, c'est vrai.
C'est clair. Et donc, voilà, pour le contexte, c'est un épisode où on parlait de nos derniers voyages, et j'étais partie en Grèce, et on s'est interrogé sur l'état sociopolitique de la Grèce actuellement, et du coup... Bah...
Ouais, ça m'arrive tout le temps.
Du coup, elle recommandait ce podcast de France Culture qui s'appelle Culture Monde. Voilà, l'épisode sur la Grèce du 24 novembre.
Très bien. Merci beaucoup. Aïda, est-ce que tu as un commentaire?
Oui, c'est pas exactement un commentaire en réaction à mon dernier kiff dans Laisse-moi kiffer. C'est une réponse de quelqu'un qui, j'espère, écoute Laisse-moi kiffer, mais peut-être pas, car au final, je ne sais pas.
Je sais pas à quoi m'attendre du coup.
Attends, si c'est bon...
Ça fait sens.
C'est quelqu'un qui s'appelle Sarah plus Nour sur Instagram qui réagit à une de mes stories.
Okay.
Et bref, le contexte n'est pas très important. Simplement, elle m'écrit « La birque chaussette en hiver, c'est de droite. » Et oui, oui, voilà.
Oui, oui, la birque chaussette en hiver, je confirme que c'est de droite. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette conversation il y a vraiment deux jours avec mon mec. Je suis sûre qu'il y a des connards qui portent des claquettes chaussettes en hiver et qui sont un peu de droite. Mais peut-être pas. Désolé si c'est votre cas et que vous êtes de gauche, vous savez qu'on aime faire des raccourcis dans ce podcast.
Oui.
Justement, j'avais envie de m'acheter les mules, les chaussons, les sabots Boston de Birkenstock. Là.
Un peu fourré?
Pas forcément.
Si c'est
fourré,
fermé au bout, c'est pas vraiment des claquettes chaussettes pour moi, tu vois.
Ouais, là c'était les birks d'été, tu sais, avec les debris ouais. Et les orteils apparents.
Ouais, mais là il le partait avec des chaussettes la personne, non?
Ouais.
Mais là, je voulais les sabots avec des chaussettes pour les porter tout l'hiver. Mais
ça va.
Vous n'avez pas d'opinion. Donc,
les sabots, non, les sabots, c'est pas de droite.
Okay. Ça tient à pire chose, hein, finalement, une orientation politique. Est-ce que les orteils sont visibles ou pas? On ne sait pas.
Tant que tu dis orteils.
Quoi?
Tu te souviens pas de ce point trigger pour Anthony?
Ah oui, il y a l'autre terme qu'on n'a pas le droit de dire. Tout à fait. Vous l'avez chez vous, c'est en trois mots. T'as un commentaire, Mathis?
J'ai pas mal de commentaires et comme je sais pas trop choisir, je vais lire plusieurs commentaires. Il y en avait un, enfin je vais pas les lire en entier, je vais les résumer très vite.
Ok, désolé. TLDR, voilà. Les commentaires de LMK.
Voilà, donc par exemple, il y a un commentaire de Juliette qui par rapport à Montréal m'a expliqué pourquoi j'avais fait une balade de la déroute totale. Parce qu'à chaque fois que je fais un voyage, c'est ce que j'expliquais, j'ai toujours un moment de ma vie où genre il y a des corbeaux, des cadavres sur le côté. Je suis en mode, peut-être on s'est un peu éloigné du sentier.
Oui, peut-être, voilà. Bon. Oui, we have to go back.
Voilà. Et bah là, il y a Juliette qui m'a expliqué globalement pourquoi ma balade avait merdé, à savoir qu'un des ponts que j'ai emprunté était en travaux et que du coup la partie piétonne n'était plus accessible. Ah. Mais ce qui m'a permis de longer la bretelle de sortie, ce que tout le monde ne
fait
pas.
Mais on adore marcher sur le périph', c'est vraiment toujours très
bah
bien.
Oui, Donc, je me suis dit que voilà, c'était un bon moyen de visiter la ville de manière insolite.
bonnes adresses de Mathis
et
à Montréal.
Ouais. Et en parlant de bonnes adresses, il y a... alors, qui m'a envoyé ça? Je ne sais plus. Il y a une personne qui m'a demandé, je crois que c'est Coco. Non, c'est pas Coco, je ne sais plus. Non, Coco, elle m'a donné des conseils sur le sommeil. C'est très gentil. En fait, les gens, ils ont réagi à plein de trucs. Il y a une personne qui m'a demandé des adresses bouffe. Il y a chez Claudette, qui est l'adresse de la poutine, si vraiment vous voulez faire The Poutine à Montréal, parce que je crois que c'est une des plus vieilles et une des moins chères de la ville. Et en poutine un peu twistée, il y a la banquise qui en fait des poutines un peu différentes. La poutine, en gros, c'est des frites beaucoup avec du gras et des trucs gras dessus.
De la sauce brune et du fromage quick.
Voilà, ce genre de choses. Et du halloumi, ouais, c'est le fromage quick, un peu comme de la gomme. Voilà, j'ai dit ce que j'ai dit. et puis, il y a une personne, c'est Alice, qui m'a donné des conseils pour ne pas avoir à descendre de ma mezzanine par rapport à mon réveil le matin qui fait snooze. Enfin, pour faire snooze, elle m'a dit qu'il fallait que j'essaie de gérer ça avec mon enceinte Bluetooth. Je doute que ce soit possible, mais merci du conseil, on verra. Je suis pas sûr. Je pense que la solution, c'est de ne plus se lever le matin. Voilà. Mais,
je crois en cette... J'ai fait mon travail pour ça, je crois en cette
je
théorie.
Je crois que c'est une solution qui me correspond mieux, mais un peu moins à mon loyer. Voilà.
Oui, tout à fait.
À peu près pour les commentaires.
Comment on paye cette mezzanine si on n'a plus de salaire? C'est une bonne question.
C'est ça.
Moi, je suis contente, j'ai eu plein de commentaires sur mon kiff sur les champignons, vraiment, énormément de gens, dont Prononcer Louvre qui m'a dit qu'à partir de maintenant, elle va m'appeler Ounce les champis. Genre, ça va être un solo partout, ce à quoi j'ai répondu oui, volontiers, merci, n'hésitez pas à m'appeler comme ça. Beaucoup de gens qui m'envoient du coup des TikTok de champis, des reels de champis, des photos de champis, donc ravi, continuez, ça me fait très plaisir. Et j'ai notamment quelqu'un qui sait un peu de quoi il parle, puisqu'il est étudiant en biotechnologie, qui s'appelle A Human Being, qui me dit sur Instagram « Je viens de finir le nouvel épisode de LMK et je suis obligée de rebondir sur ton kiff champignon, car c'est aussi ma passion, que ce soit dans l'assiette ou au labo. Je suis aussi étudiant en biotechnologie. Nos amis, les champis, sont des organismes incroyaux. » Oui, je dis incroyaux, et alors? Pour revenir sur ton kiff, il me semble qu'attention, les nouvelles générations de pharmaciens et pharmaciennes ne sont plus formées à les identifier. Mais les anciens, surtout à la campagne, ils ok. Et une dernière reco, le docu Netflix Fantastic Fungi est super intéressant, bien documenté, et a une approche un petit peu mystique sur le champi. La bise à toute la team LMK. Eh bien, peu ravie de savoir que les pharmaciens et pharmaciennes ne sont plus formés à la mycologie et à la reconnaissance des champignons, car j'avoue que pour moi, c'était un peu la seule façon safe de faire, à part poster la photo sur Reddit et espérer que des gens te disent un truc pas trop con. Après, il y a des applis qui reconnaissent les plantes et tout, mais bon, faut le tenter, quoi. Ah, j'ai trouvé un random champignon, l'appli, elle me dit « is good ». Sachant qu'il y a des champignons qui ressemblent vachement à la version comestible, mais avec un pli différent. Et celui-là, peut-être, tu vas faire caca pendant 8 jours. Donc, je sais pas, du coup, si vous avez un autre plan pour valider la composition d'un champignon, à part les pharmacies, si jamais votre pharmacien ne sait pas le faire, envoyez-le nous en DM et on en parlera dans le prochain épisode de Laisse-moi kiffer, tout simplement. Mais ravi de voir tout cet engouement pour les champis. Quelqu'un m'avait conseillé un podcast aussi, je vais essayer de le retrouver d'ici la fin de l'épisode.
T'as déconseillé ou conseillé ?
M'avait conseillé un podcast
sur les
de France Culture, je crois, sur les champignons.
C'est fou.
En plusieurs épisodes et tout, un truc avait l'air, j'étais là en mode, ok, c'est ma cam, j'aime bien.
Mimicore.
Oui.
Mais du coup, on peut pas aller en pharmacie, on peut pas... C'est dur de...
Bah,
de
faut avoir un Bernard Hegel dans votre vie, mais il y en a qu'un et c'est déjà mon daron et il aime pas le téléphone, donc il va pas beaucoup voir.
Ah ouais, je peux pas lui envoyer des photos des champignons que je trouve.
Envoie-les à moi, et je lui ferai croire que c'est moi, et du coup, il me dira parce qu'il veut, que, il veut pas que je meure à cause de champignons, quoi. Mais peut-être qu'il me dira, va à la pharmacie. Mais non, il s'y connaît mieux.
Ça va commencer à être gros au bout du 380e appel
oui,
de la semaine.
Pour sa fille qui, dans sa vie, ne fait que peu de randonnées finalement. On va
oui, bonjour, c'est Mimi.
Oui, bonjour, c'est Mimi. J'ai trouvé des champignons tropicaux aujourd'hui. C'est fou, oh là là.
J'ai l'impression de revenir avec une moustache.
La banlieue parisienne. Une flore et une faune foisonnante.
On a le droit de digresser ou pas aujourd'hui? Ou il faut qu'on soit super efficace?
Il faut qu'on soit efficace, mais on a un peu le temps de digresser. Digresse.
Allez. J'ai un truc très important à vous raconter sur le sujet champignon.
Vas-y, raconte.
Qui est que depuis que j'ai eu 30 ans, j'ai un don qui est apparu du jour au lendemain pour repérer des champignons.
Ah, attends, mais incroyable, ça veut dire peut-être moi je l'ai eu et je le sais pas. Parce que moi vraiment, je suis la fille de Bernard Hegel qui est quand même championologue, tu vois, dans sa vie. Et vraiment, on faisait des balades dans la même forêt. On suivait le même sentier, il me disait on cherche des girolles qui sont genre hyper faciles à reconnaître. Le gars, il en ramenait 2 sacs plastiques entiers. Moi, je lui en montrais 3, il me disait c'est vraiment pas des girolles par contre. J'étais là, d'accord. Et vraiment passer devant les mêmes arbres et moi, je voyais rien et lui, il les repérait. Donc peut-être que ça a kick à 30 ans.
Bah,
c'est comme la mutation des X-Men à la puberté, tu vois.
Franchement, j'y crois super fort. Dites-moi si c'est vrai pour vous aussi autour de la table et dans les auditeurs du podcast. Parce que le jour où j'ai fêté mes 30 ans, j'ai trouvé une morille qui faisait la taille de ma main.
Mais c'est pas un poisson, une morue? Un morue, pardon, rien à voir.
Mathis.
J'ai 23 ans. J'ai encore 7 ans.
À 23 ans, je savais ce qu'était une morille, d'accord.
Clairement. 7 ans d'ignorance encore.
Après, je suis alsacienne, c'est normal.
Voilà, c'est pour ça.
En tout cas, voilà, depuis, partout où je vais, je vois des champignons. Et vraiment, c'est assez incroyable. Bah, je sais pas ce qui s'est passé.
Ça commence à être un souci, par contre.
Je crois que je me suis auto-persuadée que c'était un vrai don. Genre, le jour où j'ai trouvé ce truc, j'étais assez sûre. Maintenant, j'ai un don pour les champignons et tout.
Mais c'est la meilleure prophétie auto-réalisatrice.
J'en ai vu des milliards en Thaïlande et tout. J'étais dans la jungle, j'étais oh là là, il y a des champignons partout, machin. Tout le monde est très impressionné par ce don, sauf que je peux pas les reconnaître. Et j'ai téléchargé l'application Champignouf, qui n'a pas un nom très sérieux.
Non.
Du coup,
est-ce que tu joues ta vie sur l'appli Champignouf?
Bah non, du coup, je mange pas les champignons. J'essaye juste de deviner ce que c'est.
Alors, je crois que Google a un truc de reconnaissance de plantes et j'aurais tendance à faire un peu plus confiance à Google qu'à Champignouf. Mais peut-être à tort, j'entends. Et sinon, bah, en vrai, alors si tu as un vrai guide de papier du cueilleur de champignons, où il y a quand même des trucs pour reconnaître les plus courants.
C'est
et
vrai.
Tout. Donc si jamais tu as une rando en forêt prévue, tu me dis, je te prête mon guide.
Bah, moi, oui, s'il te plaît, parce que maintenant je vais y aller tous les week-ends pour essayer d'affûter mon don de cueilleuse de champignons qui sera peut-être ma reconversion professionnelle.
Ah bah, tu m'appelles. Franchement, on fait un deal, hein. On va faire un partenariat.
Peut-être qu'on peut devenir influenceuse champignons.
Mais mon rêve. Déjà, à un moment, j'étais influenceuse cocotte. Il y a une marque qui m'a envoyé une cocotte.
C'est vrai.
Gratuite. Et j'étais là, putain, c'est incroyable, je suis trop contente. Et après, j'ai dit à mon agent, essaye d'aller voir Le Creuset. Et il m'a dit, vraiment, il te donne pas l'argent aux gens Le Creuset. J'étais là, d'accord. Un jour, peut-être, je vous ferai gagner des cocottes citrouille Le Creuset sur mon compte Instagram. J'y crois, j'essaye. Sachez que.
C'est niche.
Je tente, je harcèle mon agent tous les 3 mois. C'est niche, mais est-ce qu'il y a une personne autour de cette table qui serait moins heureuse dans sa vie avec une cocotte en forme de citrouille chez elle? Mathis.
Ça se voit pas, je lève la main.
En quoi tu serais moins heureux?
Pas la place. J'ai vraiment pas la place pour une cocotte.
Ça se trouve, franchement.
J'ai vraiment pas la place pour une cocotte.
Je finance un placard supplémentaire, je viens chez toi, je fixe une étagère au mur, tu mets ta cocotte dessus, ça fait déco, elle est trop
jolie. Au pire, t'en fais un panier pour Ruby.
Mais vous êtes des zinzins. On parle d'un chien qui boude son panier parce qu'il est pas assez confort et qui préfère squatter mon canapé et soupirer dessus.
Ah, c'est vrai qu'elle soupire.
Ouais, elle soupire de ouf. C'est insupportable. Mais tu fais rien.
Elle me manque. Elle est où? Pourquoi elle est pas là?
Elle est chez Camille, tout simplement. En plus, là, elle est chez le veto. Donc, Camille m'a envoyé une vidéo de Ruby en train de trembler tout à l'heure.
Non, bébou.
Elle déteste le veto. La dernière fois, on y était juste pour acheter des croquettes. Elle a tremblé comme jamais.
Quelle drama queen,
ouais.
Je l'adore.
Ouais, de ouf.
Elle me manque. All right. C'est l'heure d'une anecdote de star qui nous a été envoyée par Sarita. Jolie. Sur le compte Instagram, @laisse-moi kiffer pour rappel. Coucou la team de choc LMK, très émue de vous partager ma première anecdote bof de star. Elle a écrit anecdote bof, comme un beauf, et pas comme bof. Peut-être qu'il y a une raison. Samedi soir, je retrouve des potes dans un cinéma Rive Gauche à Paris. Alors, bon, si vous savez pas, Rive Gauche, c'est le sud de Paris. C'est là où il y a des quartiers qui se la racontent, genre le 15e arrondissement et le Jardin des Plantes. Si. Je suis désolée, tu vas à genre Place Monge, ça coûte vraiment cher pour rien.
Bref, ouais, mais tu vas dans le 13e, droite, t'es heureux.
C'est quand même... statistiquement plus populaire rive droite que rive gauche. Ouais, si vous avez un doute, regardez les votes à la présidentielle de 2022, arrondissement par arrondissement. Ça, vous avez une forme de dégradé qui va vers le nord-est, donc la rive droite vers la gauche, et vers l'ouest et le sud-ouest, donc plutôt la rive gauche vers la droite. Bref, vous l'aurez compris, la rive gauche, ça n'a pas de sens de dire rive gauche car c'est la rive sud de Paris et c'est des quartiers, voilà, que je trouve moi un peu plus huppé.
Je suis pas d'accord avec cette sociologie approximative du vote.
Après, j'avoue, rive droite, c'est la rue de Rivoli et tout. Mais, bon.
Mais non, mais c'est ouest-est qui marche bien comme séparation à Paris, je trouve.
Oui, à la limite. Parce que quoique Jardin des Plantes et tout, ça se la touche et c'est à l'est, je crois.
Ouais, enfin, ça se la touche, mais c'est un jardin public, quoi. Fin...
Non, mais le quartier, enfin, franchement, le prix des apparts, bah oui, place, oui, mais... Monge, rue Mouffetard, mon cul.
Bah, le prix des apparts tout court, enfin, la vie, quoi. Mais...
Oui, pareil, quoi. Voilà. Bref, c'était juste pour vous faire un point de contexte débat. Rive gauche, parce que j'aime pas quand les gens ils disent rive gauche, rive droite, comme si tout le monde savait ce que ça veut dire, alors que même quand j'ai emménagé à Paris, j'ai mis genre 2 ans à m'en rappeler. Je retrouve des potes dans un cinéma rive gauche à Paris pour voir le film Les Amandiers. Je fais la queue pour acheter mon billet et je vois derrière moi un visage familier. Il s'agissait ni plus ni moins d'Elisabeth Borne, accompagnée de 4 gardes du corps et d'une amie à elle. Une soirée ciné normale.
Et d'une doudoune.
Avec mes 4 gardes du corps. Il se trouve qu'elle allait aussi voir Les Amandiers et je me suis retrouvée à 2 rangs d'elle dans la salle. Dans le film, très chouette par ailleurs, il y a pas mal de scènes impliquant des drogues et du sexe. Et ça m'a mis aussi mal à l'aise que quand je regardais des films avec mes parents et qu'il y avait des scènes de huc. Gênance maximum, cette fois avec notre première ministre. J'espère que mon anecdote vous a plu, je vous embrasse fort. Donc ce n'était pas une anecdote bof, mais c'est une anecdote bof d'avoir dû regarder des scènes de cul explicites à côté d'Elisabeth Borne et de ses 4 gardes du corps, ce qui est peut-être mon détail préféré de
le fait qu'ils se tapent une séance de cinéma, genre...
Enfin, alors, je dirais, en même temps, tu vois, je suis là, oui, bah... Enfin, je comprends qu'il n'y a pas les mains dans les poches, quoi, parce que c'est la première ministre.
Enfin, ça fait sens, et en même temps, je me dis, tu peux faire ce que tu veux, tu peux les emmener voir Les Vacances de Ducobu 3 fois, ils peuvent rien faire.
Oui, Genre, bah, j'ose espérer qu'ils sont un peu bien payés. Mais...
Allez, on la refait, tu vois.
Et qu'ils ont... En vrai, garde du corps, tu dois tellement passer du temps à la fois être en alerte et te faire chier parce qu'il se passe rien.
Bah ouais.
Que tu dois avoir des tricks mentaux de... Tu vas dans ton Mind Palace et tu fais des réussites, tu vois. Enfin, tu... Je pense que tu peux ne pas subir du cobu si tu choisis de ne pas. Si vous êtes garde du corps de profession, n'hésitez pas à
oui.
dire si j'ai raison.
Racontez-nous.
Je pense qu'on a beaucoup de personnel de sécurité qui écoute, laisse-moi kiffer.
Bah
beaucoup
oui.
de gens dangereux qui peuvent tuer des gens avec un pouce.
Accord d'épisode spécial chaussures de sécurité.
Alors, j'ai toujours pas réussi à casser les Doc Martens que j'ai acheté depuis un an et que j'ai porté genre 4 fois parce qu'à chaque fois je finis les pieds en sang. J'ai mis les pansements spéciaux, ça n'a pas marché. J'ai tapé dessus avec un marteau, comme t'avais dit dans ton article, Anthony.
Quoi
ça n'a pas marché. Je ne sais pas quoi faire. Je vais juste continuer à les porter chez moi. Ah, peut-être.
Mais tu vas niquer ton cuir. Après, si t'as du vegan, pourquoi pas. Mais...
Non, c'est du cuir. En vrai, quitte à payer cher, tu vois, le cuir vegan, c'est du plastique. Donc, je me suis dit.
Tu les as amenés chez un cordonnier ?
Non, je les ai déjà payés hyper cher. Pourquoi je devrais payer en plus pour les porter ?
Oui, c'est vrai.
Non, mais écoutez, on en reparlera peut-être pendant mon kiff, mais j'apprends des choses sur... parfois, pour porter des choses, il faut faire des efforts. Bref, les kiffs, c'est fini ! Aïda, c'est quoi ton kiff ?
Mon kiff rebondit sur le début de cette conversation, car je suis
My
d'une
God.
Cohérence sans faille,
c'est
malgré
vrai.
Moi.
Tout est répété, c'est la 8e fois qu'on enregistre.
C'est drôle parce que c'est déjà arrivé.
C'est drôle parce que des fois c'est vrai, et quand c'est vrai, c'est pas drôle.
Mon kiff, c'est une série Arte à suivre. Je vous ai déjà parlé du compte Instagram d'Arte à suivre, sur lequel il y a des séries qui sont notamment pensées pour le téléphone, à regarder en story ou en post. Et là, il y en a une qui est sortie il y a 5 semaines, donc fin octobre, à la date où on tourne ce podcast, qui est incroyable et qui s'appelle Malaisant. Comme le nom l'indique,
pourquoi un thème cringe ?
C'est un thème cringe de ouf. Et en gros, c'est une série qui met en scène deux jeunes adultes, Esther et Roméo, qui travaillent dans un stand de gaufres tous les deux, et qui, par un espèce de hasard un peu poussif, ont une histoire. Une histoire cringe. Une histoire vraiment, vraiment, vraiment cringe. qui implique de voler le slip de bain de quelqu'un. Enfin bref. C'est vraiment terriblement gênant. Et en vrai, c'est vraiment hyper drôle. L'idée, c'est un petit peu de faire une romance post-ado, mais avec... Enfin, vraiment avec des situations malaisantes. Et en fait, deux premiers épisodes... T'as dit quoi ?
C'est français ?
Ouais, c'est français. Et les deux premiers épisodes m'ont mise en PLS parce que tu poses les bases de à quel point les deux personnes sont cringe. Donc, t'as l'héroïne Esther qui est un peu renfrognée en tant que personne et qui fait tout le temps une tête où elle a la bouche vers le bas, comme ça, elle sourit à l'envers. Et qui râle. Et en face, t'as Roméo, qui est vraiment le mec le plus gênant de l'univers, qui écrit des poèmes sur ses meufs et qui écrit des poèmes en disant « Aujourd'hui, je me suis fait briser le cœur. J'ai écrit un poème triste. Et après, je suis rentrée chez moi et je me suis branlée. »
Yes.
Donc, c'est un peu sur une vibe les beaux gosses.
Cela dit, c'est littéralement moi quand j'étais ado, mais d'accord.
Bah, c'est un peu le principe, quoi.
Waouh.
C'est horrible, c'est vrai.
Le Sarouel, la Caporat, tous.
Ouais, vous avez beaucoup d'infos sur... N'oubliez pas la littérature russe. Le plot twist inattendu.
C'est tellement trop.
Oui, c'est beaucoup. Je suis une multitude, Mathis, d'accord.
Bref, voilà, c'est une série d'une vingtaine d'épisodes qui se regardent en story sur téléphone, parce que c'est pensé pour être un format... bon, en fait, c'est un peu comme si les personnages de la série faisaient des stories, en fait. Et du coup, tu les regardes comme tu regarderais les stories de gens, sauf que
j'aime
c'est
bien les
marrant.
Séries qui innovent un peu sur, sur la forme et pas que le fond.
C'est, cool. C'est hyper smart dans la manière dont c'est pensé, c'est cool, c'est des alternances de vidéos, de photos, enfin voilà, il y a tout un truc avec des légendes un peu fun et tout. C'est bizarrement joli, genre gênant mais beau, du coup il y a aussi un truc hyper intéressant avec les couleurs, et c'est surtout hilarant. Moi après les deux premiers épisodes où il a fallu un peu mettre la tête dans l'eau du cringe, ensuite j'ai été à fond.
Oh, elle est bonne quand t'es dedans, hein.
Et je faisais dans le métro en regardant les stories et tout, c'était vraiment très bien.
C'était toi qui étais cringe du coup.
Bah ouais, du coup.
C'est contagieux.
Une moi, depuis, j'ai découvert 2 heures de perdu et ça fait un petit moment, je juge plus jamais les gens qui rigolent tout seuls dans la rue ou les transports en commun parce que je rigole vraiment tous les mercredis en écoutant leurs bêtises. Donc. Et moi, j'ai pas d'image, quoi. C'est vraiment une zozo. On voit pas mes écouteurs parce que j'ai les cheveux longs. Donc, on dirait vraiment une meuf qui pousse solo. Le masque était pratique pour ça, tu vois, parce qu'au moins, on voyait moins me taper des barres. Mais du coup, non, je ne juge pas les gens qui passent un bon moment dans le métro.
Grave, dans le droit. Et j'espère qu'il y a plein de gens qui rigolent dans le métro en écoutant Laisse-moi kiffer.
Tout à fait.
Ouais, j'espère qu'on participe au fait de. De rendre les gens heureux dans le métro et de vous faire cringe de ouf.
Yes.
Plutôt que de regarder ses pieds et d'être triste parce que le métro, c'est quand même pas super.
C'est vrai.
C'est bof. Mais c'est quand même utile.
C'est de gauche.
Grave. Bref, en tout cas, Malaisant, c'est vraiment très très bien. C'est facile à regarder, c'est cool. La réalisatrice a été scénarisée et réalisée, je crois, par.
Une femme,
personne qui s'appelle Louise Condémy.
Incroyable, bravo Louise.
Une femme avec un nom.
Exactement. Oui. Et je crois que c'est une de ses premières productions un petit peu accessibles un peu partout, quoi. Donc c'est trop trop bien. C'est trop cool aussi de pouvoir encourager, soutenir des scénaristes meufs et jeunes en regardant des trucs comme ça. C'est trop bien carté à suivre. Ils ont décidé de se lancer sur ce projet qui est un peu différent des trucs qui étaient sortis sur la plateforme avant. Et qui est barré, quoi. Vraiment, c'est trop trop cool, c'est trop créatif. Et les acteurs et actrices jouent aussi très très bien. Je vais vous retrouver le nom des 2 acteurs principaux parce que quand même, c'est important de les citer.
Moment pendant lequel Mimi va chanter. Vas-y Mimi, chante.
Mimi chante très peu. C'est pas en essayant de me prendre par surprise que tu vas faire chanter. Ça ne marche pas à l'improviste. C'est pas comme les enfants où vraiment, si tu les chopes, quand ils réfléchissent pas, ils vont faire le truc, ça ne fonctionne pas.
Donc c'est joué par Mélodie Ada dans le rôle d'Esther et Sidi Mejaï dans le rôle de Roméo. Ils sont trop forts, vraiment, c'est trop trop cool qu'ils arrivent à faire passer autant de malaise et en même temps autant de fun dans la série. T'as pas mal de, notamment la réalisatrice Louise Condémy qui a pas mal partagé aussi sur son compte Insta perso ce qu'elle avait pensé de la série, ce qu'elle a préféré. Et c'est hyper cool aussi de voir l'amour qu'elle porte à ce projet et au personnage qu'elle a inventé. Voilà, c'est un kiff très, très facile d'accès, très drôle.
Trop cool.
Si c'est plus cringe que drôle, ne m'en voulez pas. Je rappelle que The Office, c'est mon doudou. Et voilà.
C'est quand même un indice de contextualisation dès le début de cet épisode.
Et voilà. Soutenez RT à suivre. Soutenez les gens qui font des projets innovants et cool et les meufs qui scénarisent des trucs en France parce que c'est trop bien et on sait aussi trop bien faire plein de choses.
En parlant de meufs qui font des projets cool mais cringe, t'avais vu Chewing Gum, la première série de Michaela Coel? C'est du coup reco si vous cherchez une autre série cringe par une meuf. Je l'ai regardée en entier, donc ça va. Mais je pense que je l'ai regardée en entier parce que j'étais là. Le fait que ce soit une meuf qui le fait, qui le réalise, qui joue dedans, qui l'a écrit, que ce soit l'histoire d'une meuf racisée à Londres et tout, genre c'est assez différent pour que je tienne le coup.
C'est la meuf de I May Destroy You, c'est la même
tout
personne.
Tout à fait, c'est actrice et créatrice de I May Destroy You, qui est sa série d'après, beaucoup plus sérieuse, beaucoup moins comédie.
Ouais.
Sa première série Chewing Gum, qui alors pendant longtemps était dispo sur Netflix, je crois qu'à un moment elle l'était plus, donc j'espère qu'elle est de nouveau dispo, sinon elle doit être dispo quelque part sur une plateforme. C'est sur une meuf qui vit dans un genre de HLM au Royaume-Uni, je crois que c'est en banlieue de Londres, en tout cas c'est une banlieue d'une ville américaine, qui est jeune adulte, qui vit avec sa mère et sa sœur qui sont très très croyantes et qui décide de perdre sa virginité. Mais elle est genre ultra awkward et un peu nerd et limite elle a un appareil dentaire et elle connaît rien à la sexualité, mais elle décide qu'elle en a marre d'être vierge et qu'elle veut perdre sa virginité. Et donc c'est plein d'aventures de cette meuf-là qui essaye de pécho entre autres et vraiment c'est dur des fois parce que waouh, c'est cringe, mais ça vaut le coup et on rigole beaucoup aussi. Après, c'est une série format plus classique, c'est pas aussi innovant que malaisant dans la forme.
Chewing Gum, il y a vraiment des degrés de cringe de haute voltige, quoi.
C'est des petits millefeuilles, quoi.
Il y a des scènes qui sont vraiment catastrophiques. Je sais même pas si les décrire au micro, ce serait genre la scène de la bienséance.
Le petit ami fétichiste, là.
Ouais, la scène du fétichiste.
Ouais, voilà. Je peux pas décrire. Vous savez quoi ? Regardez une bande-annonce, regardez le premier épisode. Et voilà, comme dit Aïda, des fois, faut mettre la tête dans l'eau du bain du cringe. Et après, elle est bonne. Je sais plus exactement la métaphore, mais vous l'avez.
Y a pas un bébé avec l'eau du bain, non ?
Ça, c'est quand on le jette.
D'accord.
Mais il faut pas, je crois. C'est quand on vide la bourde. Bref.
Non, faut pas jeter les bébés en général, ça pose des problèmes.
Merci pour ce kiff, Aïda, qui donne très envie.
Merci.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors que ça s'appelle malaisant quand même.
Ça partait mal.
Anthony, c'est quoi ton kiff?
Plot twist, tu changes complètement de kiff, mais tu peux même pas te rendre compte du plot twist parce que tu connaissais pas le kiff initial.
Alors, on m'avait dit le thème, le type de kiff.
Je voulais vous parler d'un podcast qui s'appelle Hotline, mais je vous en parlerai une prochaine fois, je pense. Je vais plutôt vous parler de Saint-Omer d'Alice Diop.
Oui.
Qui est un film extraordinaire qui vient de paraître dans les salles obscures françaises. Alice Diop, c'est une réalisatrice française qui a remporté déjà plusieurs prix avec ce film qui s'appelle Saint-Omer sans H, hein, c'est S-A-I-N-T, plus loin O-M-E-R. Et en fait, c'est un film qui chamboule toutes vos attentes parce qu'en fait, il a été vendu par les médias comme un film sur l'infanticide et basé sur une histoire vraie, celle de Fabienne Cabou, qui est une femme qui a poser son bébé sur une plage à marée montante une nuit. Et du coup, la mère a MER a emporté le bébé. Le bébé est mort.
Je regrette intensément la vanne qu'on vient de faire sur jeter le bébé avec l'eau du bain maintenant.
Grave.
Ah, pardon.
Mais j'aime l'enchaînement quand même inattendu.
Très pardon. Et en parlant oralement, je réalise des choses, tout un champ sémantique et d'ambiguïté et de jeux de mots possibles autour de la mère M-E-R et de la mère M-E accent grave R-E.
Et Saint-Omer, du coup.
Et Saint-Omer, qui est le nom aussi d'une ville, une espèce de village près de la mer. Parce qu'en fait, Fabienne Cabou, l'histoire vraie, ça s'est passé à Berck-sur-Mer. Mais en revanche, justement, Alice Diop, en fait, elle ne fait pas du tout un documentaire parce que. Ça, c'est intéressant de le préciser parce qu'Alice Diop, historiquement, de formation, elle est sociologue et elle a fait plusieurs documentaires très, très sociaux sur des personnes qui attendent pour une permanence pour obtenir des droits sociaux, des réfugiés, pardon, je ne suis pas du tout clair. Ce qui s'appelle La Traversée, il me semble, je ne sais plus. Il y en a un autre qui s'appelle Nous, que j'ai adoré. Il y a un article sur Mademoiselle que j'ai écrit, Nous, N-O-U-S, comme le pronom personnel, où elle suit des gens qui vivent sur le RER B, avec sa caméra embarquée. Et en fait, elle suit plein de familles et de personnes individuelles qui ont des métiers, qui appartiennent à des classes socio-professionnelles totalement différentes. Et c'est hyper intéressant. Il y a à la fois des personnes richissimes qui font de la chasse à cours près de Saint-Rémy-les-Chevreuse et des personnes qui sont aides à domicile, aides à la personne, des choses comme ça. Donc c'est hyper intéressant. Donc elle nous a vraiment habitués à ce genre de documentaire-là. Il y a aussi Vers la tendresse qui est sublime sur la masculinité dans des quartiers populaires. Vraiment.
C'est celui qui a eu un prix, non?
Ils ont tous eu des prix.
Tous ?
Presque tous, ouais. Vers la tendresse, il a eu un prix au César, il me semble. Ouais,
c'est un César, c'est ça.
Mais nous, il a eu un prix à la Berlinale.
Ouais.
Et Saint-Omer, du coup, ce nouveau film, il vient d'obtenir deux Lions d'or à la Mostra de Venise. Deux Lions d'or de deux prix différents, de deux jurys différents. C'est pas.
Wow.
Du coup, il y a un prix du public, il me semble, et un prix du jury. Quelque chose comme ça, et donc c'est une consécration énorme, et en fait, justement, il y a des années, elle avait déjà obtenu des prix à la Mostra de Venise, donc vraiment, c'est une bête de concours, enfin, c'est une personne, c'est une artiste, une cinéaste, déjà très très reconnue par la profession, moins connue du grand public, parce que le documentaire, c'est pas un format qui est si facile d'accès dans les salles de cinéma, et même le public a pas forcément ce goût-là, en fait, donc c'est assez peu projeté.
Ils sont pas trouvables partout aussi, ces documentaires, enfin, moi je sais qu'un temps, j'avais commencé à en regarder plein que j'aimais bien et du coup après j'arrivais pas à trouver les autres et j'avais galéré. Alors à l'époque je pense que je connaissais pas Tank aussi qui est une plateforme de documentaires, mais je sais pas si aujourd'hui tu sais à peu près où ils sont trouvables.
Bah en fait quand tu payes tu trouves généralement, mais il faut pouvoir payer effectivement. Mais
ouais, c'est peut-être l'époque où je payais pas. Maintenant je paye souvent, mais à l'époque je me posais moins la question comme ça. Mais
ouais, bah effectivement c'est plus difficile d'accès, on est tous et toutes d'accord là-dessus. Effectivement les documentaires sont plus durs à trouver, à se payer, à s'octroyer.
Oui, c'est rare qu'ils passent le cap du cinéma grand public comme Entre les murs ou ouais, de l'Empereur ou quelques rares cas comme ça où c'est du docu pur qui est au cinéma à 20h à côté du dernier Avengers, quoi. C'est rare qu'ils aillent jusque là.
Effectivement, c'est pas dans toutes les salles de cinéma et c'est pas à des heures, même les horaires en fait où on diffuse les documentaires dans les salles de cinéma sont pas les mêmes. Enfin, moi, je suis un grand fan de documentaires, surtout de mode, et ça c'est hyper dur de trouver même à Paris quoi.
Mais, oui. Et comme t'as un job à horaire fixe, forcément la séance de 10h30 du matin, t'es là. Yes.
Ouais, ouais.
Merci. J'allais beaucoup en voir quand j'étais à la fac et au lycée, mais du coup c'était pour les publics scolaires quoi.
Ouais. Bah, en tout cas, l'histoire, ça, c'est basé sur une, c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc, Fabienne Cabou qui a donné son enfant à la mère. Du coup, c'est un infanticide. Hein, on va pas romantiser ça, glamouriser cette histoire. Et c'est pas du tout ce que fait non plus Alice Diop. Et en fait, Alice Diop, elle ne raconte pas finalement ce fait divers. Elle s'en inspire de manière très très imagée. Tout en jouant avec la barrière entre fiction et non-fiction, parce qu'en fait, l'histoire de Saint-Omer, sans vous spoiler du tout, parce qu'en fait, l'infanticide, c'est les deux premières minutes, et on voit rien, hein, c'est complètement épuré, c'est une scène qui est complètement abstraite, en fait, très tragique, très éthérée. Et ensuite, c'est le procès auquel Alice Diop a réellement assisté dans la vraie vie, en partie. Et dans ce film, qui est une fiction, la première fiction, c'est le passage à la fiction de Alice Diop. Dans ce film, en fait, on suit une romancière qui s'appelle Rama, qui assiste au procès par curiosité. On ne comprend pas exactement pourquoi. Elle est attirée par cette figure de mère infanticide. Et en fait, elle va au procès un peu par hasard. Donc Rama, cette romancière, est une femme noire. La mère infanticide est une femme noire aussi. On devine qu'elles ont à peu près le même âge. Du coup, on devine une forme d'identification. Elle se dit, cette femme, ça aurait pu être moi. Elle me ressemble. J'y vais peut-être un peu pour ça. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant avec Alice Diop, c'est que elle ne répond jamais à rien dans ses films. Elle lance tellement de points d'interrogation et c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est toujours vertigineux. C'est le cas dans ses documentaires et là, dans cette fiction, bah, c'est également le cas puisque on se dit waouh, est-ce que c'est un donc Rama, cette romancière, est-ce que c'est un double d'Alice Diop? Mais même ce personnage de Rama, elle ressemble à un double de la mère infanticide qui ne s'appelle pas Fabienne Cabou comme dans la vraie vie, mais qui a un autre nom, Laurence Couli, il me semble, quelque chose comme ça. Et donc voilà, il y a toute cette image de double, de regard. C'est aussi un film qu'on pourrait dire qui interroge le female gaze, parce qu'en fait on voit des femmes regarder d'autres femmes qui regardent ailleurs, et c'est toute une interrogation sur le regard, sur, mais en fait c'est un film sur la maternité et sur ce qui fait notre humanité à l'épreuve de l'horreur, à l'épreuve de l'exil de nos mères aussi parfois, et c'est hyper intéressant. C'est un film qui m'a mais bouleversé quoi. Et après, c'est un film qui est relativement, j'allais dire, exigeant. En fait, c'est juste que c'est pas un film qui est généreux, qui va pas se donner. Il n'y a pas beaucoup d'artifices spectaculaires pour vous accrocher la rétine ou votre attention. Donc, c'est normal de décrocher. Et en fait, il ne faut pas se flageller. parce que c'est un film aussi qui montre beaucoup de moments d'audience dans un procès. Du coup, bah, tu décroches, c'est normal. Mais en fait, c'est presque un huis clos parce que la majorité du film se passe dans cette salle de procès. Et dans ce tribunal, et en fait, il y a presque trois personnages. En fait, il y a Rama, cette femme qui est en train d'être jugée, et une troisième personne qui est la juge. Et la juge, vraiment, elle est derrière son bureau, on la voit à peine. Enfin, tous les plans sont dignes de tableaux, de portraits antiques ou de la Renaissance. Vraiment, la mise en scène, les lumières, c'est incroyable. Tous les plans sont magnifiques. Et surtout, c'est beaucoup de plans séquences qui sont très très longs. Du coup, je peux comprendre que l'attention décroche, mais en fait, c'est OK, ça ne vous empêche pas de suivre le film, parce qu'en fait, l'intrigue, elle tiendrait en trois lignes. Et c'est ça qui est magnifique. C'est vraiment une tragédie racinienne. Enfin, c'est Médée réécrite par Alice Diop, quoi. Enfin, et voilà. Enfin, pas que par Alice Diop, d'ailleurs. C'est écrit pour la première fois avec celle qui fait les montages de ces films depuis des années et des années, ainsi que Marie Ndiaye. Je vais vous retrouver le nom de celle qui fait ces montages, mais elle s'appelle Amrita David. Donc c'est la personne qui faisait les montages d'Alice Diop depuis des années, qui a pour une fois passé le côté co-scénarisation avec Alice Diop et avec Marie Ndiaye, qui est une romancière qui a déjà pris le concours. Donc voilà, c'est un film de femme pour tout le monde, qui est vraiment extraordinaire. Et je crois que j'ai oublié une parenthèse. Ah oui, voilà, par rapport à la dimension tragique, il y a un truc qui m'a vraiment troublé, c'est ce juge, cette femme juge. Vraiment, il y a... Enfin, je peux rien dire sans spoiler, du coup, je vais pas spoiler, mais il y a quelque chose de vraiment cathartique, quoi. Enfin, je vais rarement au cinéma, mais je préfère aller au théâtre, et j'ai vécu du théâtre au cinéma, grâce à une documentariste qui est passée à la fiction. Enfin, magnifique film. Allez voir Saint-Omer, courez-y. Allez-y seul ou accompagné, et pourquoi pas avec votre mère d'ailleurs. Je pense que je vais y retourner avec ma mère, et ce sera la première fois que j'irai au cinéma avec ma mère d'ailleurs. Donc voilà, c'est Saint-Omer d'Alice Diop. C'est pas du tout violent physiquement, il n'y a rien de graphique
ouais,
à l'écran.
Ouais, j'allais dire, même psychologiquement, tu vois, pour les gens qui ont du mal avec les thématiques de mort d'un enfant, de perte d'enfant, etc., à quel point peut-être ça peut être... Alors j'ai bien compris qu'il n'y a rien qui est montré, mais bon, même juste dans les paroles et dans les émotions, ça peut être dur, tu vois. C'est quand même une thématique peu fun.
Bah oui, en fait, je pense pas que ce soit un film qui est violent. On apprend assez peu sur la vie de cet enfant mort dès le début du film hein. Et on en apprend en revanche beaucoup plus sur cette mère qui a tué son enfant et son rapport à sa propre mère à elle okay. Et son rapport okay. à, en tant que femme noire à l'espace public, à la France, aux hommes blancs et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que c'est plus un film sur les dynamiques sociales, être une femme noire au 21e siècle, être mère, devenir mère, le regret maternel, qu'un film sur J'ai tué mon gosse, quoi. Ça, c'est limite un détail.
Ok. Ok, c'est hyper intriguant. Peut-être aller le voir vite, parce que comme on a dit, les documentaires sont pas très souvent en salle.
Mais c'est pas un documentaire, c'est une fiction.
Oui, c'est une fiction. Et... peut-être qu'il va rester plus longtemps en salle.
Bah, je pense qu'il va rester plus longtemps en salle.
Et peut-être être distribué dans plus de cinémas aussi, surtout en dehors des grandes, grandes villes, quoi.
Je pense qu'il va être bien distribué parce que c'est... il va représenter la France aux Oscars.
Ok. Donc, elle ok, pèse. Bon, ils ont intérêt à le sortir au cinéma, du coup, quand même, s'il va représenter la France. Oui, quand même, qu'on puisse le voir en France, c'est bien.
Oui, bah, il est sorti hier, à l'heure où on parle, il me semble. Donc, voilà.
Ça okay. fait une semaine qu'il est sorti. Non, deux semaines qu'il est sorti au moment où sort cet épisode.
On a dit qu'on arrêtait de s'engager.
Pourquoi vous faites ça
les épisodes où...
Je suis désolé, parce que je gère tous
on
les plannings
dans ma tête.
On
vous parle de choses et à un moment, vous les entendez. C'est ça qui se passe dans les soins qui fait. On ne sait pas quand. C'est dans les limbes.
Désolé.
Mais non, mais il n'y a pas de souci. Attends, moi aussi, j'ai dû décaler le planning mille fois. C'est juste. C'est la beauté de les soins qui fait. On a toujours des choses à vous raconter. Merci pour ceux qui font, Tony.
Oui, je suis très d'aller le voir.
Merci beaucoup.
Grave. Mathis, c'est quoi ton kiff?
Du coup, j'allais vous parler de cinéma, mais je vais peut-être twister le truc. J'allais...
Oh, je suis désolé.
Non, t'inquiète. C'est juste que j'ai eu. Je vous avais dit quand je suis arrivé dans Laisse-moi kiffer.
T'allais
pas
du tout
parler
de cinéma, tu m'as menti.
Oui, je t'ai complètement menti, mais j'ai changé trois fois de kiff. Je suis désolé, vraiment, c'est terrible. Mais du coup, il y avait. Quand je suis arrivé dans Laisse-moi kiffer, je disais que je restais jusqu'à la fin des génériques. C'est globalement vrai. Et j'ai eu un contre-exemple où je suis sorti au milieu du générique avec ma capuche en pleurant. Voilà, donc c'était ça dont j'allais parler.
T'as pleuré encore plus que d'habitude, sachant que tu pleures.
J'ai fait une crise d'angoisse en sortant de la salle.
Ah, d'accord.
Donc voilà, mais c'est un kiff parce que j'aime bien les émotions, voilà, laissez-moi.
Des fois, on aime souffrir.
Ouais, j'étais dans la rue, les gens étaient en mode waouh, cette personne est en rupture. Non, le film était juste vraiment très bien. Et
Bah, lâche le nom quand même, Name Drop,
c'est
ça.
Close,
est-ce que t'en parles.
Le film Close qui a pas mal fait parler de lui, en tout cas dans le microcosme des grandes affiches parisiennes dans le métro.
Donc, qui c'est est pas le film d'animation de Noël que Netflix a sorti.
Nope, c'est Close, d'accord. Comme proche, comme fermé.
Ah, Close. Close. Pas Klaus.
Non, pas Klaus.
Moi j'étais sur
nine.
Klaus, le
nine,
Père
nine,
Noël.
9999.
Très joli film d'animation au demeurant. Voilà. Si l'animation traditionnelle vous manque, allez voir Klaus sur Netflix.
Je vois bien une crise d'angoisse en sortant de la sur le Père
j'étais
Noël.
Surprise, j'étais là. Mais pourquoi il l'aurait vu au ciné en 2022? Mais tu sais, je sais pas. Je voulais faire genre.
Je suis sensible, je suis un homme sensible.
Ouais, ouais, il est très sensible.
Non, mais en fait, tout simplement, j'en ai parlé un tout petit peu sur Instagram. Du coup, à la limite, je vous remettrai les stories à la une, comme ça, vous aurez mon point de vue. Puis je peux passer vite à autre chose. Du coup, je vais plutôt reparler de, je crois, ce sur quoi je m'étais engagé de base, c'est-à-dire retourner au théâtre.
Yes.
C'est ce que je t'ai dit?
Oui.
Ouais, ok. Bon, je pense que je vais partir là-dessus, finalement. Tout simplement parce que j'ai complètement raté ce début de saison théâtre. Pour beaucoup de gens, ça n'a pas d'importance, c'est pas grave, etc. Moi, j'avoue que ça a été un truc qui a été constitutif dans mes dernières années d'études, dans le sens où, en fait, avec les tarifs au rabais que j'arrivais à avoir, surtout à Lyon, j'allais très souvent au théâtre. Et en fait, en début d'année, voire au milieu de l'été, quand les programmations sortaient, j'étais en mode « Ok, donc on va poser toutes les programmations sur un bureau, on va commencer à faire des cordes qui vont relier les différents trucs,
ouais,
on va entourer, on va regarder les dates. »
C'est ouvrir les catalogues de jouets pour voir ce que tu as à Noël.
Exactement.
Quoi. C'est... Ok, qu'est-ce qu'on a? Let's go.
Exactement. Et j'étais en mode « Ok, est-ce que ça vaut le coup de prendre un abonnement pour tel théâtre ou est-ce que je vais voir que deux pièces là-bas et du coup ça serait plus valable, machin, tel truc. » Donc je faisais vraiment des châteaux en Espagne à partir de trois bouts de papier et je commençais à paniquer en mode waouh, parce que ça va être le même sort que ça je vais pas pouvoir. Et cette année j'ai complètement loupé le coche. Je me suis vite fait renseigner et j'ai commencé à vraiment me renseigner au moment de Dramatis, tout simplement parce que j'étais plus étudiant et qu'en fait j'ai vu les tarifs et très vite j'étais c'est un peu prohibitif.
La raison pour laquelle je ne suis pas allée au théâtre depuis que j'ai arrêté la fac.
Ça m'a un peu calmé. Enfin, c'est pas forcément genre beaucoup plus cher, mais genre 5 balles sur une place, ça veut dire que en deux places j'ai une pièce en moins, on va dire. Ouais. Parce qu'il y a plein de salles où, en fait, pour 10 balles, j'y allais.
Est-ce que la carte de presse, il n'y a pas des prix préférentiels ?
Carte de presse, je ne pense pas, mais du coup, bah, maintenant, j'ai des invitations parce que bah, Dramatis.
Bien sûr.
Enfin, en tout cas, je les sollicite. Hein. C'est pas les gens qui viennent me voir. Le plan fonctionne pour l'instant. Et du coup, c'est pour ça que mon kiff, c'est retourner au théâtre. C'est qu'avec ce podcast, bah, par la force des choses, j'en vois beaucoup. Donc, je retrouve cette impression à Lyon de... souvent, je suis... Enfin, j'aime pas forcément ce que je vois. Je suis très, très, très critique sur ce que je vois. Mais j'adore quand même y aller à chaque fois. Enfin, je regrette jamais. Ça m'arrive de me barrer à l'entracte quand vraiment je passe un mauvais moment. Mais ça m'empêche pas d'a... Enfin, je regrette jamais d'être venu.
Oui, genre, j'aime bien aller au cinéma, même quand c'est un film nul, tu vois. Bah, alors que si c'est chez moi, ouais. Je suis là, vas-y, j'arrête, je perds
oui,
mon
voilà,
temps.
C'est
mais
ça.
Au cinéma, il y a l'expérience qui va avec, quoi.
Il y a l'expérience qui va avec. Et il y a un peu ce truc de genre, à chaque fois, ça me pousse à réfléchir sur certaines choses de pourquoi j'ai pas aimé telle pièce. Typiquement, la dernière fois, j'ai vu l'adaptation du Consentement de Vanessa Springora. Donc c'était adapté au Théâtre de la Ville avec Ludivine Sagnier par Sébastien Davy et la musique était faite par Dan Levy donc, qui était l'ancien mec de The Do, enfin un des deux de The Do. Et donc j'ai été voir ça et en fait il y avait plein d'ingrédients pour que ça marche, c'est-à-dire un mélange de mise en scène un peu smart avec une espèce de toile de fond en papier calque derrière lequel elle venait se mettre et ça faisait une espèce de flou transparent un peu étrange. Et du coup, pour contextualiser un peu d'ailleurs, Le Consentement, c'est un témoignage, de base, c'est un livre témoignage sur Vanessa Springora qui a vécu une relation pédocriminelle, du coup, avec Gabriel Matzneff, qui a pas mal été médiatisé il y a un an ou deux maintenant.
Qui a été victime de la relation.
Oui, oui, qui a été victime, bien sûr.
Oui,
ouais,
oui. C'est juste pour pas qu'il y ait non, de bien possibilité sûr. De.
Mais et Gabriel oui, elle Matzneff, cause... qui est auteur reconnu, oui. Multiprimé, etc., et qui n'a du coup jamais dire... été. Condamné d'aucune forme que ce soit. Quoi.
J'allais dire, si elle avait été coupable, elle ne l'aurait jamais raconté dans un livre, mais fun fact, il l'a fait. Et il faisait ça avec toutes les enfants, finalement, qui ont été victimes. Et donc, il porte ça sur scène, et bah, typiquement, ça, je l'ai vu au théâtre, et genre, il y avait des trucs qui formellement me plaisaient, mais je suis sorti en me disant, ok, ça ne me plaît pas, pourquoi ? Et j'ai passé une demi-heure, trois quarts d'heure à vraiment me creuser les méninges, à me dire, mais putain, il y a un truc, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, qui ne me plaît pas dessus. J'ai fini par le pointer. Mais du coup, ça m'a permis de réfléchir et d'avancer dans ma réflexion et dans mon rapport à ce que je vais aller voir, de ce que je ne vais pas aller voir. Bon, je vous spoil ma réflexion parce que de toute façon, je l'avais mis en story Instagram, donc il n'y a pas un mystère dingue. Typiquement, ce qui me gênait là-dedans, c'était qui tu es pour adapter un témoignage.
Ouais, l'enjeu est quand même.
En fait,
faut vraiment, vraiment le réussir parce que l'enjeu, c'est quand même.
Bah oui, puis c'est quoi réussir à adapter un témoignage qui te concerne pas ?
Je sais pas, c'est pour ça que je le fais pas.
Bah ouais, c'est ça.
Non, enfin, bah après, si c'est vois, réussir à tout. Alors c'est pas exactement le même exemple, mais bah, l'exemple du film d'Alice Diop, voilà, ça se base sur un truc, une histoire vraie. Alors c'est pas l'adaptation d'un témoignage, mais il y a des moyens de parler de choses qui sont vraiment arrivées de façon plus ou moins subtile, plus ou moins respectueuse,
fiction,
en mettant de la distance. Ouais. C'est pas exactement pareil, mais. Il y a des façons de ne pas bien le faire et des façons de mieux le faire, mais je ne prétends pas savoir lesquelles, clairement. Je ne suis pas metteuse en scène.
Je pense que là, on est dans un entre-deux qui, moi, ne me plaît pas. Je préfère une lecture, à la limite, ça me gêne moins. Là, le côté en faire une performance, capitaliser sur les émotions de quelqu'un d'autre pour qu'une salle puisse applaudir des quatre mains, un truc qui, par ailleurs, j'espère que tout le monde a les mains propres, on va dire, dans la salle pour pouvoir autant se galvaniser d'être des belles personnes et d'être autant opposé à la pédocriminalité, quoi. Enfin, je sais pas, ça me dérange un peu ce truc un peu performance, un peu performatif de regarder, on est tellement bien sur ces sujets-là. Mais n'empêche que du coup, je suis content de l'avoir vu, j'ai un avis dessus. Bon, après, je me suis pas ennuyé non plus. Et puis, j'ai découvert le livre aussi que j'avais pas lu. Du coup, le texte est vraiment superbe sur plein de points, dans le sens où il est à la fois très évocateur, évidemment, sur les logiques du truc et sur dans quel état d'esprit elle est aussi au moment de la relation. Elle le retranscrit vachement bien. Puis bon, bah, par ailleurs, c'est extrêmement bien écrit, donc même d'un point de vue artistique, c'est intéressant. Mais à la limite, c'est anecdotique. En fait, le livre pourrait être écrit avec le cul, elle aurait pas moins de mérite. Parce que c'est un truc qui pareil, m'a pas mal dérangé autour de l'œuvre, à quel point on était trop content que ce soit bien fait, comme s'il y avait une mauvaise victime que celle qui écrit mal son bouquin. Quoi. Enfin, genre, moi, ça me gênait un peu ce truc-là, mais il y avait tout un truc qui me dérangeait, mais n'empêche que. En sortant de la pièce, je me suis dit, ça, c'est un truc que j'avais déjà ressenti sur plusieurs pièces, que j'ai déjà vu par rapport à des programmations, que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Là, ça a poussé un curseur un peu plus loin, peut-être sur un truc, je sais pas, où je vais voir un certain moment de ma vie, et du coup, j'avance dans ma réflexion. Puis, bah, par ailleurs, je vais aussi voir des trucs au théâtre que parfois j'adore, et puis je vais voir des trucs en mise en scène où j'arrive à identifier maintenant, plus je vais au théâtre, plus je vois ce qui en fait est vraiment original ou ce qui l'est pas. Parce que des fois, tu vois un truc pour la première fois et t'as l'impression que c'est l'invention de ta vie. Et puis après, tu vois sept pièces qui font la même chose et tu fais.
La première fois que j'ai vu un film avec un twist de fin, c'était Fight Club. Et j'étais vraiment en mode.
Quoi ?
Ils ont le droit de faire ça. Je l'ai remis direct après, je me le suis rebouffé. J'étais en mode, mais c'est incroyable ! Mais c'est incroyable quand tu le sais, mais c'est fou ! Attends, mais c'est waouh ! Bah, c'était pas la première fois qu'un mec faisait un twist à la fin d'un film. C'est juste ton premier, t'es là.
C'est ça. Et moi, j'ai eu beaucoup ça en théâtre avec un truc qu'ils font beaucoup sur les grosses productions, qui sont les plateaux tournants, où en fait, au milieu de la scène, vous avez un plateau
comme
qui tourne.
Comme dans Hamilton.
Comme dans Hamilton, mais comme dans un nombre invraisemblable de trucs. Dans les musicals, c'est extrêmement courant, mais parce qu'ils ont des thunes. Et là, pour le coup, je l'ai vu fait par Fia Ménard, qui est du coup une metteuse en scène... mais aussi plasticienne, artiste, enfin elle vient plutôt du cirque de base, mais elle fait des trucs super intéressants. Et du coup, j'ai vu son adaptation des Enfants Terribles, qui est un opéra adapté de Cocteau avec une partition de Philip Glass. Voilà, je sais pas si ces gens vous parlent, mais de toute façon, vous aurez plus
Cocteau,
d'infos.
Cocteau, La Belle et la Bête, oui. Philip Glass, qui fait, je sais, de la musique
répétitive, des boucles à base de piano, etc. Voilà.
De qualité. Ah oui, si j'avais piano.
Ah,
j'avais
voilà.
Piano. Parce que j'avais Jean-Michel Jarre, mais en mieux dans ma tête. Donc je pense que j'avais piano. Ce qui est peut-être vrai ou peut-être pas, c'est un jugement de valeur gratuit d'une personne qui, rappelons-le, n'écoute pas de musique et en fait encore moins.
Mais du coup, voilà, simplement pour terminer, bon, j'en parlerai, je pense, dans Dramatis, certainement dans l'épisode 3, parce que du coup, à l'heure où on enregistre, l'épisode 2 vient de sortir, et comme c'est dans deux semaines, c'est l'épisode 3. Ouais, ça se tient, ça se tient. Je suis, vous inquiétez pas. Et donc, typiquement, bah, là, c'était un double plateau tournant, et en fait, ce qui était super intéressant, c'est qu'ils avaient un espèce de décor au milieu, qui était une espèce de cabane vitrée, avec des rideaux à l'intérieur, semi-occultant, on va dire. Et en gros, ils jouaient vachement sur le fait de parfois ça occultait, parfois ça occultait pas. Du coup, ça change la lumière. Parfois, la cabane, elle s'ouvrait, parfois elle se fermait. Parfois, le plateau, il tourne dans un sens, parfois dans l'autre. Et du coup, il y a des trucs où ça... Tu vois les musiciens sur scène, donc les trois pianistes, ils sont dans des espèces de petits pianos droits qui sont alignés sur le plateau. Et donc, ils tournent à fond autour de la cabane au début. Donc là, ils doivent être au bout de leur life.
T'as un peu la gerbe quand même.
De ouf. Et du coup, t'as tout ce jeu avec les lumières et le plateau, il joue vachement avec ce truc-là. Et j'avais jamais vu le truc autant articulé. Et après, bon, elle est connue pour avoir des dispositifs extrêmement forts. Et puis, c'est une performeuse aussi qui parle beaucoup du genre, parce que bon, c'est une des rares metteuses en scène trans en France. Donc, par ailleurs, c'est un sujet sur lequel elle est très, très pertinente. Et comment dire, elle l'a déjà bien exprimé dans des mises en scène. Donc, elle s'est déjà fait beaucoup reconnaître par sa capacité avec la forme à retranscrire une émotion, à retranscrire un ton. Et je pense que c'est ce que j'essaierai de transcrire dans l'épisode de Dramatis du coup qui en parlera. Et puis bah, peut-être tout simplement pour terminer retourner au théâtre, c'est aussi la possibilité de me rendre compte à quel point il y a des lieux que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, parfois des petits théâtres qui payent pas de mine, à quel point aussi j'aime, enfin c'est un lieu qui me fait rire aussi, parce que je trouve que c'est des gens aussi qui sont des spectacles en eux-mêmes. Genre la dernière fois, le théâtre de la ville, typiquement c'est pas forcément le public que j'affectionne le plus. C'est un public que je trouve assez bourgeois et assez dédaigneux et qui bouscule pas mal sans dire pardon quand c'est placement libre, vraiment arrêter d'être des chiens. Et la dernière fois, j'ai eu un couple de meufs qui sont arrivés, mais je me suis dit, mais waouh, elles parlent comme dans un film. Et vraiment, elles étaient, mais quel tourment! J'ai tant attendu avant de te revoir!
J'adorerais dire ça, premier deuil! Mais quel tourment, la RATP, oh là là!
Sur le quai de la 7, tous les matins.
Et en fait,
quel tourment, mes aïeux, on se piétine, on ne s'entend plus penser.
Et parler extrêmement fort, et j'étais en mode, les gens se donnent vraiment en spectacle, c'est beaucoup de paraître, et je dis pas ça avec du mépris ou quoi, parce que ça m'arrive de parler fort et d'être content, peut-être que des gens entendent des bribes de mes blagues, je sais pas, mais voilà, c'est des lieux où je trouve ça intéressant, les rapports entre les gens, comment les gens se regardent, comment ils se placent, comment ils se comportent, les lieux sont intéressants, des fois c'est des lieux qui se la pètent, des fois c'est des lieux qui payent pas de mine, des fois vous avez mal au cul, vous êtes mal assis, et on voit des gens, en fait, on est tous mal assis, et peut-être que la personne à côté de moi gagne trois fois mon salaire.
Assis.
Exactement. Je suis, t'es mieux placé que moi, mais t'as mal au cul. Tu vas faire quoi? Donc voilà, c'est des lieux que j'aime bien. J'aime bien y aller sans savoir ce que je vais voir. Et puis des fois, t'es juste trop content de revoir des mises en scène d'une personne que tu aimes beaucoup. Enfin voilà. Voilà. Retourner au théâtre, c'est mon kiff.
Trop bien. Je voulais juste rebondir sur cette idée de même quand t'aimes pas, c'est cool. Je pense que c'est un exercice dans la critique que les gens comprennent pas toujours. Des fois, il y a un peu un côté, quand tu publies une critique négative, par exemple, d'une œuvre, où les gens ils disent en gros, t'y allais pour pas aimer, tu vois. T'y allais en sachant que t'allais pas aimer, t'y as été pour tirer sur le film ou parce que ça fait bien de pas aimer ce film, tu vois. Et je pense qu'il y a un truc déjà vraiment, c'est que quand on aime bien une forme d'art, on a toujours envie de bien aimer. Genre, même les films, moi j'aime bien les films et les séries plus que le théâtre, même ceux qui ont l'air le plus éclatés du monde. Je n'attends qu'une bonne surprise, je n'attends que d'aller voir qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, la suite du retour de la vengeance, et d'être là en mode « Ah, oh, c'est bien et c'est pas raciste, ce serait trop bien, j'adorerais ça dans ma vie. Dites-moi si ça arrive, j'irai au cinéma avec plaisir,
jamais.
Y a pas de problème. » On ne sait pas, peut-être un jour ils vont confier à un nouveau réalisateur ou un nouveau scénariste ou à de nouveaux acteurs et puis changer le public et puis ça sera super. Donc, on ne sait pas.
C'était la question d'une pote la dernière fois. Prends le pire film auquel tu peux penser et rends le meilleur, comment tu ferais? Et après, on a fait l'exercice contraire. Prends le meilleur film que tu aimes et comment tu le rempires. Et on mettait Christian
Alors,
Clavier partout.
Je te le donne, mais ça ferait un bon podcast. N'hésite pas. Je te le donne parce que c'est ton idée, mais ça ferait un bon podcast cinéma. Du coup. Et oui. Donc déjà, je pense que fondamentalement, on n'y va jamais pour pas aimer. Même quand on se dit « je vais pas aimer », on y va ouvert à la possibilité d'une bonne surprise. Et même quand on n'aime pas, en fait, c'est intéressant d'y réfléchir et de décrypter pourquoi on n'aime pas. Parce que ça nous dit des choses sur nous, ça nous dit des choses sur le contexte culturel. Genre, peut-être que t'aimes pas parce que ça fait la cinquième pièce que tu vois qui reprend une actualité brûlante de violence sexuelle sans forcément dire quelque chose de plus que ce qui a déjà été dit. Peut-être parce que c'est pas le témoignage de la personne et du coup ça t'interroge. Enfin, y a plein de bonnes questions à se poser, tu vois, et à poser. Et c'est aussi ça le job des gens qui font de la critique d'art. Donc c'est ok de pas aimer et c'est ok d'expliquer pourquoi on aime pas. Et ça veut pas dire que ça valait pas le coup d'y aller, quoi. Parce qu'on peut jamais savoir avant d'y être déjà. Et parce que comprendre une forme artistique, c'est comprendre ses éléments moins bons ou en tout cas ceux qui nous parlent le moins, c'est normal aussi, quoi.
Clairement.
Voilà. Mon kiff à moi est une petite étape de la vie.
Oui.
Car, sachez-le, en ce mois béni de novembre 2022 où nous enregistrons, je ne sais pas exactement combien de temps ça fait que je vous avais parlé du fait que, parfois, j'ai du mal à faire des choses dont je ne connais pas à 100% les interactions sociales qui y sont liées et du coup, dans le doute, je ne le fais pas. C'est lié à notre rencontre de tout à l'heure, d'il y a 2 heures dans la rue. Car je vous avais expliqué que parmi les nombreuses choses que je n'ose pas faire, car je ne sais pas comment ça se déroule, il y a aller à la retoucherie, faire retoucher des fringues, notamment des pantalons, parce que je suis une minuscule personne. Donc les ourlets, en fait, toute ma vie, ma mère a fait mes... Et je ne sais pas coudre. J'ai essayé d'apprendre. J'oublie tout le temps. Ça me saoule. Je suis pas manuelle. Donc oui, je pourrais le faire chez moi. Non, je vais pas le faire. Donc dès qu'il faut faire un ourlet ou un truc comme ça, historiquement, j'allais assez régulièrement chez ma daronne pour qu'elle me le fasse parce qu'elle m'aime. Il y a 800 bornes entre nous, ça devient un petit peu compliqué. Et du coup, j'ai 2 très beaux pantalons que je ne peux pas porter parce qu'il faut faire un ourlet et les reprendre à la taille, car le saviez-vous, j'ai perdu un peu de poids ces derniers temps. Et du coup, j'avais expliqué dans Laisse-moi kiffer que je n'ose pas aller à la retoucherie parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne comprends pas, genre, est-ce qu'il y a une cabine dedans et du coup, tu n'arrives pas avec le pantalon que tu veux faire retoucher et du coup, tu le mets là-bas. Et le mec, il prend les mesures et après, tu lui laisses et tu repars avec le pantalon que tu avais sur toi en arrivant. Est-ce que tu dois arriver avec sur toi le pantalon que tu veux faire retoucher, etc. Tout ce continuum spatio-temporel a fait qu'en 31 ans de vie, je n'ai pas été à la retoucherie. Et je vous en ai parlé il y a des mois et vous avez été plein, vous avez été trop chou à m'expliquer comment ça se passe chez la retoucherie et à me dire même,
c'est trop mignon.
Au pire, genre, je sais pas comment ça se passe d'habitude, mais dans celle-ci, précisément à Paris, j'y étais, voici comment ça se déroule. Donc merci beaucoup. Je n'avais donc plus l'excuse de l'anxiété, juste celle de la procrastination. Et j'ai enfin été, plusieurs mois après, à la retoucherie. Ça s'est très bien passé, il y avait une cabine. Première information, j'arrive dans le lieu, le premier truc que je vois, c'est une cabine d'essayage. Donc je suis là, ok, parce que j'avais 2 pantalons que je n'avais pas sur moi, du coup forcément, plus mon jean que j'ai sur moi. Et j'étais là, ok, donc je vais pouvoir les essayer. Et quand même, je jouais en difficile parce que c'était ce genre de taulier de magasin qui te fait du second degré, mais en fait, tu ne le connais pas et tu ne sais pas comment ça se passe. Et genre, je suis arrivée et je lui ai dit, bonjour, j'ai 2 pantalons à faire retoucher. Et il m'a dit, ah bah non, on ne fait pas ça. Et j'étais là, c'est déjà compliqué pour moi d'être là.
C'est
mec.
La pire blague à faire à quelqu'un qui
mais
va me
Mais c'est tellement compliqué que j'en ai fait un podcast. De quoi tu parles? Pourquoi tu me fais une vanne? Et en plus, vraiment, genre, un peu on dirait mes tontons du bled un peu pince sans rire et tout. Et j'étais là. Ah bah c'est dommage alors, je repars, j'ai cru que quand il y avait marqué retoucherie c'était un indice et il m'a dit ouais bah vous allez essayer, on va voir. Et j'étais là, ok, j'ai passé à l'hôtesse, c'était bien une blague, d'accord. C'était pas clair mais c'était bien une blague. Et du coup toutes les interactions j'étais un peu comme ça sur des œufs, mais alors qu'il était adorable, c'est juste moi qui suis mal à l'aise quand je suis pas sûre des fois de... Alors que worst case scénario, je lui dis ah ok j'y vais et du coup il me dit non mais c'était une blague et voilà c'est bon, l'interaction fonctionne quand même, mais bon, des fois on panique, vous le savez.
Oui.
Et du coup j'ai été à la retoucherie et écoutez, normalement d'ici 7 jours je serai l'heureuse propriétaire d'un cargo pant en velours vert. Oh. Et wow. Un pantalon de costume en velours noir, car quand même je me suis pas déplacée pour rien.
Oui.
Qui sont respectivement un cadeau de Noël de mon mec et un cadeau de Noël de moi à moi que je me suis offert l'année dernière et que je n'ai jamais porté parce qu'ils sont trop grands à tous les niveaux. Normalement ça va le faire. Plus d'infos peut-être dans mon kiff de la semaine prochaine. Mais je suis ravie d'avoir passé ce cap. Merci au LM Crado, car c'est un peu grâce à vous. En vrai, vous m'avez beaucoup rassuré.
Mais c'est pour ça qu'on fait ce podcast.
En vrai, oui.
C'est pour avoir des infos sur les retouches.
Me permettre de dépasser tous mes blocages absurdes dans la vie. Un jour, vous m'apprendrez à qu'est-ce que j'ai peur de faire aussi. Je sais pas. J'aime pas trop aller dans les magasins fancy de café parce qu'ils te font tout le temps goûter des trucs. Tu sais jamais si c'est payant ou pas et comment dire. En fait, je vais rien acheter et après tu pars et on dirait juste que t'es venu boire du café gratos. Mais c'est pas un besoin dans ma vie d'aller acheter du café trop cher. Vraiment, je sens pas la diff. Je vais réfléchir à une autre situation qui me fait paniquer. C'est bon signe que j'en ai pas immédiatement en tête. Ça veut dire qu'on grandit,
c'est bien.
Et qu'on arrête de paniquer à l'idée de faire des trucs random. J'avais la retoucherie. J'ai toujours salle de sport et tout, je fais pas, mais en vrai, j'ai pas envie, donc je vous en parlerai un jour, ce sera une autre étape de ma vie de déjà me dire j'ai envie d'aller à la salle de sport. Mais le jour où j'aurai envie d'y aller, Je me dirais, je sais pas comment ça se passait, je vais paniquer. Donc je vous en parlerai dans laisse-moi kiffer, vous m'expliquerez tout ça. Okay. J'ai été à la retoucherie, tout s'est bien passé. Normalement, j'aurai des pantalons à ma taille la semaine prochaine. C'était vraiment pas si dur.
Affaire à suivre.
Mais, non, mais c'est cool d'avoir un podcast sur un magazine quand même de l'ampleur de Mademoiselle, avec du coup l'audimat qui va avec, où on peut juste parler trucs d'anxiété sociale débile et
bien sûr.
Pas être reçu par des « Oh, bolos, c'est pas compliqué », mais par des « Ok, voici toute la marche à suivre de la retoucherie », parce qu'en fait, c'est pas expliqué sur Internet et que s'il y a que ça qui te stresse, bah vas-y, je te le dis.
Bah, ouais, ma première fois dans un lavomatique, je pense que j'ai salopé plein de machines. Ah là là.
Mais oui, mais la laverie.
Parce que je voulais aller le plus vite possible et du coup, je faisais des conneries, mais j'étais en mode, je veux disparaître de cet endroit.
Ouais, ouais, la laverie. Appuie
sur n'importe quel bouton pourvu que ça se lance.
Et en plus, une fois sur deux, laverie, elle te mange, elle te dit un distributeur à dosette de lessive. Donc tu dis, ok, j'ai donc pas besoin d'emmener ma lessive. Et t'arrives sur place et non, il est vide depuis 1998.
Oui,
toi, tu
exactement.
Sais pas. Il dit que t'as une machine pour faire la monnaie, mais pareil, elle marche plus depuis qu'on est passé à l'euro, tu vois.
Oui,
là.
Oui, oui.
Du coup,
oui.
Je ne suis pas optimisée pour cette activité.
Tout
et
est vrai.
J'ai mon linge sale à trimballer, ce qui est chiant quand même.
Oui, c'est la honte.
Sur la retoucherie, justement, j'y étais allée quand j'avais, je sais pas, 22 ans pour la première fois tout seul. Et même, j'y étais jamais allée avec d'autres personnes avant par le passé non plus. Donc, c'était vraiment la première fois tout court. Et du coup, il a pris mes mesures pour retoucher un pantalon et une veste que j'avais acheté dans une espèce de vente presse de malade. Enfin, pas vente presse, pardon, vente privée. Et ça m'allait pas du tout, c'était beaucoup trop grand. Donc, je voulais les reprendre et tout. Et ne fais pas la même erreur que moi, Mimi, et les LM Cœur non plus. C'est, en fait, j'ai pas osé dire, après les retouches, quand j'ai réessayé les trucs, que ça me convenait pas.
Ah ouais, ça, c'est dur
du coup,
aussi.
J'ai juste
c'est comme
payé.
Dire à la coiffeuse, ça te va pas, tu vois. C'est genre, faut oser. Je crois que maintenant j'ose, mais j'avais pas envisagé ça à la retoucherie. J'y penserai pour la semaine pro.
Ouais, ouais, c'est important de dire, en fait, ça me convient pas. Je voulais que ce soit plus ajusté ou moins ajusté ou je sais pas quoi. Et moi, notamment, il y avait une veste, tu vois. Et vraiment, il me l'a surcintré. Et je l'assumais pas à l'époque. Et entre-temps, j'ai pris 10 kilos. Et du coup, bah, je l'ai jamais reporté, quoi.
Bah alors que tout l'objectif, c'est quand même de dépenser des sous pour pouvoir porter tes fringues. Bah c'est dommage, en effet. Et ça donne pas envie d'y retourner. Donc, je note pour la semaine
pro.
C'est
oser dire que ça vous convient pas, quoi. Et
sinon, t'as plus que des pantacours, c'est chiant, quand même.
Bah, le pantacours, ouais.
Défends-le. Vas-y, défends le pantacours.
Quel est l'avis de l'expert mode de Mademoiselle sur le pantacours gate?
Trop d'informations là-dedans. Le corsaire, c'est Y2K, mais c'est moche.
Pantacourt, c'est German.
J'adore cette affirmation. Genre, oui, c'est à la mode. Oui, c'est moche. C'est pas grave. Faites genre ce que vous
German Y2K. Vraiment.
En revanche, justement, je trouve que des vêtements trop larges, c'est plus facile à porter que des vêtements trop ajustés. Parce que trop ajustés, tu rentres pas dedans, en fait.
Bah, oui, clairement. Et chaque moment où tu te baisses est un risque dans ta journée. Donc, c'est compliqué, quoi.
Oui,
parce que moi, c'est des pantalons, donc ça peut craquer facilement.
En l'occurrence, justement, dans les deux pièces, il y avait un blazer. Du coup, il me l'a rendu trop petit, donc vraiment, je rentre plus dedans. Enfin, je peux plus le refermer, c'est ridicule, ça me va pas. Et de l'autre, c'était un pantalon, et je rentrais encore dedans, mais je ne pouvais pas me baisser. Et un jour, je me suis baissé, et je l'ai craqué.
Non.
Et je l'ai craqué une soirée, genre, soirée un peu mondaine, tu vois. Vraiment, la honte de ma vie.
C'est exactement ce que je voulais faire. C'est comme ça que ça se porte. Tous les jeunes font ça de nos jours.
Alors, j'avais encore une veste par-dessus le pantalon, donc ça ne se voyait pas. Okay. J'ai entendu le crack, je me suis relevé en précipitation et juste j'ai regardé tout le monde en mode est-ce que vous l'avez vu ou pas.
Oui,
mais je n'ai pas retiré ma veste et je crevais de chaud.
Ah
et,
non.
Et c'était un pantalon en Rami, Aydra Carman, vraiment je.
On l'embrasse, petit ange parti trop tôt, petit ange.
Je l'ai encore, je l'ai encore. Mais en fait, il suffirait de le recoudre, mais il est trop petit donc je peux pas le remettre quoi. Mais bon, fin de l'histoire, dites aux gens quand ça vous convient pas.
Tout à fait.
Surtout si c'est un commerçant, un commerce, un service que vous payez quoi.
Oui, et en plus, le mec, il a envie de faire du bon boulot, tu vois. Moi, je lui ai expliqué, c'est un cadeau que j'ai pas pu porter depuis un an et tout. Il était là, bah trop cool, il va t'aller, il est content. Et
surtout, une retouche, ça se retouche.
Oui, c'est son travail, finalement.
C'est vrai, ça?
Ça se re-retouche.
Faut dernier moment de malaise, c'est vraiment un épisode à thème malaise, je suis ravie. dernier moment de malaise après la blague, qui du coup était une blague, parce qu'en fait, oui, il fait des retouches de pantalon. En enlevant le. Donc, je porte le pantalon et il m'a mis des épingles à l'ourlet, évidemment, donc en bas, mais aussi à la taille et au niveau des fesses pour voir comment il allait refaire la couture arrière. Et alors, pour le coup, il n'y avait pas de malaise, il était très « je vais mettre mes mains là » et tout. Il n'y avait pas du tout de problème dans ce sens-là. Mais en rentrant dans la cabine pour du coup enlever le pantalon, je me suis rendu compte que deux des épingles avaient pris ma culotte en même temps. Et que du coup, ma culotte était actuellement fixée au pantalon que j'étais censée laisser au monsieur. Et que si j'enlevais les épingles, bah, j'allais enlever les repères qu'il avait posés. Donc j'étais vraiment dans la cabine, j'ai marqué une minute d'arrêt de... Les gens ils m'ont pas dit en DM que ça pouvait arriver, qu'est-ce que je fais. Et j'étais là-bas, en fait... Je vais pas ruiner toutes les mesures qu'il a faites juste parce que j'ose pas, tu vois. Donc je l'ai remis, j'ai ouvert le truc. Je lui ai dit, par contre, ça a pris ma culotte en dessous. Il était là, ah oui, ça arrive. Et il m'a refait en tirant un peu plus le tissu, quoi. Et voilà, c'était tout. Mais j'ai quand même vécu ce moment où j'étais là, je peux pas laisser ma culotte avec.
C'est tellement
je peux pas non plus la déchirer.
J'aurais pleuré si ça m'était arrivé.
Je me dis que finalement, la déprime saisonnière n'est pas si vénère. J'ai pas pleuré quand ça m'est arrivé. Mais si j'avais été en PMS, j'aurais pleuré de ouf. J'aurais été là, bah voilà, j'avais raison, c'est pour ça que je vais pas la retoucher. Tout est chiant.
Et après, je me serais barrée en courant avec les épaules sur le huc. J'aurais dit, c'est pas grave.
Et le pantalon trop grand pour courir.
Cette interaction doit se terminer le plus vite possible.
C'est vraiment, j'ai envie que le sol s'ouvre et m'avale, du coup je vais partir en courant.
J'ai paniqué, je lui ai craché dessus et je suis partie.
C'est la crache pas sur le jeu. On court quand on panique, mais on crache sur personne.
Fuyons avec hostilité.
En vrai, je trouve qu'on crache pas assez sur les gens.
Quoi ?
Littéralement ?
Attends, quoi ? C'est le nouveau titre de cet épisode.
Oui, vraiment, il arrive sur la fin. Non, mais une sortie de route incroyablement timée.
Est-ce que vous avez vu ce TikTok d'une meuf énergie de Karen sur des pyramides mayas qui en fait les monte
et
elle prend tout son petit temps.
Donc,
et tous les touristes lui disent attention, c'est irrespectueux, ne faites pas ça.
Il grimpe une pyramide maya en Amérique du Sud et il faut pas. Alors moi je savais pas voilà. Parce que j'avais
il y a un panneau
sud, mais...
avec écrit genre
oui non, je me doute que c'est bien indiqué, mais c'est vrai que j'avais pas l'info. Mais en même temps, sinon tout le monde le ferait tout le temps, ça les abîmerait, tu vois. Faut pas grimper les pyramides mayas, et quand tu le fais on te voit.
Non mais oui,
en fait, il y a que ça à voir, tu vois, on te voit les grimper, enfin.
Putain, les gens ont tous une caresse sur leurs photos, c'est incroyable. Elle est sur toutes les photos.
Elle a monté en totale détente, au ralenti. Après, elle est redescendue. Et du coup,
elle
a traversé...
Elle main character syndrome. Elle était là, c'est mon moment. Elle avait sa petite playlist dans les oreilles
de
et tout. Elle était là, let's go, mange-pierre.
Elle était en train d'écouter Vanessa Carlton.
Je sais pas la rêve, je sais pas ce que c'est.
Ta-na-na-na-na-na, I need you. Tu vois cette chanson ou pas?
I want you. Tu vois, parfois, je chante, mais faut pas me dire de
miles,
le faire.
100 miles, 1000 miles.
Exactement.
Ah, je me rappelais pas du nom de l'artiste. Vraiment, elle a fait une chanson, la pauvre. donc, et en fait, après, elle traverse une haie de gens qu'il a eu.
Normal.
En fait, on aurait dû lui cracher dessus. Voilà.
Mais en plus, c'est le pays des lamas, donc dans le doute, c'est pas nous.
Laisse-moi kiffer, n'est pas un podcast qui prône la violence envers autrui.
Mais est-ce
donc,
que c'est de la
si
violence
vous voyez des gens cracher sur quelqu'un qui ne l'a pas mérité, qui ne l'a pas, qui n'est pas consentant.
Oui.
Ah,
c'est de la violence,
la limite.
Quand même, un petit peu. Même si on estime que la personne l'a mérité, vous irez pas dire c'est mademoiselle qui m'a dit de le faire, ok ? Moi je veux pas de problème. Tout ce que je vous dirais, c'est Anthony Vincent spécifiquement.
Je n'incite pas à ce qu'on crache sur les gens qui... sans leur consentement. Je dis juste qu'on crache pas assez sur les gens.
Dans l'absolu, de manière hypothétique.
Voilà, de façon systémique, on ne crache pas assez sur les gens. Peut-être.
Pas dans
de façon individuelle, faites attention à sur qui vous crachez.
D'ailleurs, j'ai écrit un article sur le crachat consenti sur mademoiselle.com.
Le Sweet King, je me souviens.
Oh, un rédacteur mode, finalement, de qualité.
Maintenant qu'il pense, voilà.
Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de clôturer cet épisode de Laisse-moi kiffer.
Sur le crachat ?
Oui. Sur le speed kink.
De manière synchronisée, des bruits de crachat ?
Non, on ne va pas faire ça. Il y a vraiment des gens qui ont des écouteurs à réduction de bruit qui nous
écoutent.
Ah ! Même moi, c'est ma misophone qui ont pris un coup de pression quand tu as dit ça.
Je suis misophone, j'ai ce casque.
Et tu vas monter cet épisode.
Je peux faire du ASMR.
J'ai envie de manger mon micro.
Slide dans mes DM. C'est dégueulasse. J'arrête cette conversation.
Je suis sûr qu'il y a des gens qui paieraient pour ça.
Mais où sont-ils ?
Okay, et qui sont-ils ? Il y a vraiment un regard dans les yeux d'Anthony qui était là. Oui, mais combien ?
Et combien ?
Finalement, la question, c'est combien ? Anyway, merci
tout
d'avoir
s'achète.
Été là, chère équipe, pour ce retour de la vengeance de Laisse-moi kiffer, qui
tout
est dans
s'achète,
vos oreilles tous les jeudis et chaque dernier mercredi du mois en live sur Twitch à 18h30 ou 19h, je ne sais plus, sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. Voilà, parce qu'avant, c'était 20h, mais je viens de me raconter qu'on a changé.
Venez tôt.
Voilà, venez tôt, prenez-vous une petite tisane et on arrive à un moment. Merci chère équipe, prenez soin de vous, envoyez-nous vos commentaires,
Mimi.
Dédicaces, anecdotes de stars, etc. Vite bolos, et également en DM sur le compte @laisse-moi-kiffer, sur nos comptes Instagram respectifs que vous trouverez dans la description. Vous pouvez aussi nous envoyer des audios, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, à la semaine prochaine
et bisous
les LMK.
Bisous
le pire mec.
Oh mon dieu.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.